Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes olives noires, mes olives vertes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, je prie pour que mon enregistreur ne bug pas, une partie de l'intro avait été coupée dans l'épisode de la semaine dernière, vous n'aviez eu que la présentation de Titiou, ce qui ne vous a pas empêché d'apprécier la discussion, tant mieux. Mais avant, je vous racontais un peu ma life, j'ai encore eu un incident, cette fois-ci avec ma lampe à huile, mais je ne vous en dis pas plus ici car j'ai tout raconté et filmé dans mon spectacle, donc ça sera sur les réseaux cette semaine. Justement, aujourd'hui nous recevons un roi de YouTube, l'incroyable Ben Nevers, dont l'objectif est de rendre le monde plus doux en réunissant les gens. Autour de tables rondes, entre mecs, entre potes, tartines de vie, autour de sujets comme l'arrêt de la cigarette ou la virilité auquel Ben a consacré un livre. À un moment, vous allez m'entendre dire « zimble » au lieu de « humble », il faudra que vous soyez indulgent. Au tout début, vous allez entendre un bruit de fond, puis la voix d'un mec, c'est Brice, un régisseur à la SACD, qui m'a rendu service en filmant Ben pendant que je lui lisais le poème, mais il m'a envoyé la vidéo via un truc de partage de fichiers bizarre, j'ai pas pu l'ouvrir. Puis j'ai proposé à Ben un appel en FaceTime pour lui lire un nouveau poème après coup, en enregistrant l'écran, mais ça a pas enregistré le son. Bref, c'est dur de tout faire toute seule, les amis, parfois j'ai des galères, et sachez que chaque épisode vous parle vient de façon artisanale concoctée par mes petites mains. Ben donne pas mal de clés justement sur l'autoprod, la création indépendante, comment s'émanciper des chaînes pour créer soi son business model artistique. Sa liberté d'aller explorer Twitch, de programmer qui il veut. On a aussi parlé du rafé, hein, la couture entre les deux testicules, donc rien à voir. On a parlé de multi-orgasme, de complexe, de suicide impossible du haut d'une dune et du Mont-Saint-Michel. Appartient-il à la Bretagne ou à la Normandie? La réponse vous est donnée ici. Bonne écoute.
Waouh. C'est comment récent. Faire de l'entrepreneuriat de gauche? Ouais, c'est récent, ouais. Ça s'est terminé cet été, je la kiffais trop. Okay. Et résultat, en fait, maintenant, il y a une petite nana qui bosse pour moi, mais sur la com de mon spectacle. Ouais. Et en fait, elle est payée par ma prod. D'accord. Et donc, résultat, okay. J'ai pas de rapport de thune avec elle, ni de machin. Ouais. C'est de à elle à voir.
Mais,
avec...
mais du coup, elle vient pour les podcasts aussi, des fois, pour filmer.
Ben non, parce que c'est pour mon spectacle, donc je l'ai pas
ça,
encore.
Ça, c'est un vrai problème en spectacle, mais j'en ai beaucoup discuté avec Alex, notamment, tu sais, qui faisait tous ces. Alex Ramirez,
ouais,
qui faisait tous ses sketchs et tout. Et où, en fait, les prods comprennent pas que tu remplis tes spectacles grâce
évidemment.
À ces extraits-là.
T'as raison, mais tu vois, t'es déjà. Ça, c'est. Le cerveau de Ben Nevers, c'est comment?
La tunasse. Moi, je suis droite.
Ça, bah, c'est les youtubeurs, hein, en vrai.
Ah bah, bien sûr. Et puis, moi, en plus, je suis youtubeur qui vient d'agence social media avant, donc je vais te dire, c'est... C'est pour ça que je gagne des thunes.
Bah ouais.
C'est que je vends mes formats direct.
Waouh, j'ai beaucoup trop de questions à te poser directement là-dessus. Alors, attends. Hop.
T'es stressé? Est-ce que t'as écrit?
Bah ouais, je suis stressée.
Pourquoi t'as un meilleur casque que moi?
Parce que je suis une femme et qu'il fallait rétablir
raison, les... Ok, c'est bon, je peux rien dire.
Ben Nevers. Nevers ou Nevers?
Nevers.
Ben Nevers est impossible à résumer. C'est l'un des podcasteurs youtubeurs les plus prolixes d'Internet qui lance et fait évoluer ses formats de façon toujours plus ambitieuse et joyeuse. D'entre mecs au Ben Nevers Show, de la vidéo au livre, de la fameuse table ronde au Trianon à son lit où il s'est auto-interviewé, Ben Nevers, c'est la sincérité. Le masculin nouveau, la sensibilité assumée. Merci Ben de proposer autant de contenu, de garder toujours le cœur ouvert pour nos oreilles ravies.
Oh, c'est magnifique. Tu m'as regardé comme... C'est bon ou c'est pas bon? Ok. Waouh, merci.
Ah, cool.
C'est tellement stylé que c'en est presque gênant parce que je suis en mode non, je crois que c'est...
Oh.
C'est surestimé.
Ben non, mais c'est qu'il y a tellement... Tu sais, parfois, les invités, quand il y a un livre ou un film, t'es là, bon, bah, tu peux parler, mais quand t'as... Des milliards.
Bon, je te l'envoie.
Trop bien.
Tu me diras où ça, sur ton adresse.
Oui, ou sinon on fait un airdrop tout à l'heure, okay. Quand je sors.
À tout à l'heure. À
merci. Tout. Alors, raconte-nous, t'es arrivé, y a des jeunes qui t'ont accosté, mais avant tu t'étais trompé d'adresse. Encore pardon, hein, parce que j'aurais dû te renvoyer, moi. Ça aurait été plus professionnel que je te renvoie à l'adresse ce matin. Et que je te reprécise, c'est pas l'entrée rubalu de la maison des auteurs.
On peut dire où tu tournes ?
Ouais.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas donné l'adresse.
Non.
Tu m'as dit c'est le studio SACD.
Oh, la honte.
Et donc j'ai tapé sur Google le studio SACD.
Oh, la honte.
Tu m'as dit dans le. On est dans 9e, là.
Ouais.
9e. Donc en fait, je suis tombé dessus. Et en fait, dans cette rue, il y a des panneaux SACD partout. On dirait que c'est une blague.
Ouais,
vraiment.
C'est une mafia.
Et bon, ça va, c'est juste à côté en vrai.
Ouais, mais bon, quand même, c'est pas
et c'est vrai qu'il y a eu un sketch juste après. En fait, il faut que je fasse le tour. Et en fait, là, il y a eu une rue où j'avais l'impression que c'était le Truman Show, où je me suis arrêté 8 fois. Par, mais genre, vraiment, la rue n'est pas si longue que ça. Donc vraiment, c'était presque du tac au tac. Et c'est intéressant parce que souvent, ça se passe comme ça. C'est que moi, les gens n'osent pas trop m'arrêter, sauf si quelqu'un m'arrête. Et là, il y a une espèce de porte ouverte de « Ah, ok, on peut se permettre.
Okay. »
Et donc là, d'un coup, je me rends compte que tu sais, presque c'est Truman Show, tout le monde se retourne et fait « Ben Nevers, bien sûr !»
Putain, mais ça doit être tellement relou. Pourquoi tu mets pas ton masque ? Le masque, tu sais, franchement...
Parce que je suis claustrophobe.
Ah, ok.
Et je suis tellement heureux qu'on ait plus le masque.
Ouais, mais la dernière fois, j'ai reçu Baptiste Le Caplin. Et
ouais,
il avait son masque et il me disait, bah, en fait, c'est moyen de survie, quoi. Sinon,
ah, ouais.
Il y a un Larsen ? Non, toi,
moi, je l'ai pas.
Ok, très bien. Parce que, ouais, je comprends. Après, moi, ça m'arrive jamais d'être connue. Et résultat, quand ça m'arrive, je suis trop contente. Je suis en mode, mais non, mais d'où ? Genre, j'entame une discussion. Je suis là, mais tu veux un selfie ? Le mec, là, non, non, juste te dire bonjour. Je suis en mode, vraiment.
C'est pour ça qu'il y a ton prénom sur ton t-shirt. Là.
Ouais,
je me disais aussi.
Reconnaissez-moi.
Non, en vrai, moi, ça me fait plaisir. Enfin, en vrai, les gens, ils sont tous sympas, quoi.
Oui.
C'est en vrai, c'est plus genre là, tu vois, ce week-end, j'étais chez moi à Caen. Et c'était plus à vers 1h du matin, voire même là un petit peu plus tôt, où là j'étais plus cascade capuche parce que dès que les gens ont un peu bu, les gens passent de sympa à un peu relou.
Ouais, bah
Et c'est plus ça, mais en vrai ça m'arrive très peu de sortir le tard le soir, donc c'est plus ça. Mais là, dans la journée, là c'est cool.
Oui.
Et à Paris, en vrai, ça arrive moins souvent qu'en dehors de Paris.
Ouais.
Les gens sont presque blasés de rencontrer des gens connus, ils sont en mode, ah, c'est bon, le 8e,
ouais,
c'est bon. J'ai fait un selfie avec Elise et Moon, je vais pas en faire un avec Ben Nevers.
Ouais, c'est vrai. Et puis j'imagine que c'est vrai que ta commu, ils ont l'air très choupis.
Ouais, de fou.
Ouais.
Franchement, c'est hyper rare que j'ai des gens qui me connaissent pas trop. Tu sais, qui se disent, ah ok, j'ai vu vite fait un extrait.
Ouais,
ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, où c'était une meuf de 14-15 ans qui fait, ah ouais, vous êtes le TikToker et tout. Je suis en mode, ouais, ok, bon.
Ah ouais, non,
je passais un step, j'ai vraiment posté quelques extraits, mais je
c'est
pas
de
TikToker.
Là qu'elle t'a connu, quoi.
Bah ouais,
ok.
Du coup, où là, c'est plus des gens qui me connaissent pas trop, qui ont vu un extrait de 15 secondes, tu vois, d'une émission. Mais sinon, les gens, c'est plus moi. En vrai, mon gros cœur de cible, c'est des 20-30 ans.
Ok.
À 50% sur YouTube, tu vois. Et après, c'est genre les 25-35, un truc comme ça.
Ok, j'imaginais que ça commençait plus tôt.
En vrai, il y en a de plus en plus.
Ouais.
De plus en plus, mais c'est vrai que mes formats, ils sont pas forcément évidents. Tu vois, avoir des podcasts qui durent 2 heures filmés, où on va discuter de la vie, tu vois.
Oui.
De base.
C'est un peu adulte, c'est un peu long, mais en même temps, t'es tellement pédagogique et clair. Je sais, c'est la FAQ, la dernière vidéo que j'ai regardée encore, où tu répondais à toutes les questions. Je me suis dit, waouh, enfin, genre. J'aurais des enfants, j'aurais envie qu'ils te suivent.
Et ben moi, c'est drôle parce qu'il y a des parents qui me disent ça.
Ouais.
Ils disent, ah, moi, j'ai un enfant qui a 4 ans et je garde les vidéos, je lui montrerai plus tard et tout. Mais non, il y a de plus en plus de jeunes en vrai. Mais il y a des formats comme ça, tu vois, la FAQ, c'est un truc de 30 minutes où on discute et tout, c'est plus facile. Des fois, j'ai des invités qui sont plus jeunes aussi, donc ça aide à ramener un autre public.
Mmh.
Et puis, j'ai des formats où j'essaie de faire des formats un peu plus courts aussi, où la porte d'entrée, c'est aussi le divertissement. Et via le jeu, on amène à se poser des questions et tout, quoi.
Non, mais je suis trop fascinée par le côté entrepreneurial décomplexé et qui, ça, je pense, est quand même une grosse force des youtubeurs. Donc, toi, tu travaillais dans les social media avant ?
Avant, ouais, je bossais en agence social media, ouais. Et je faisais du contenu pour les marques. Donc, parce que je viens de la photo à la base et après, je me suis professionnalisé dans la vidéo aussi derrière. Parce que les réseaux sociaux, c'était pile le moment où on disait, bah, l'avenir, ça va être la vidéo. Et ce qui est drôle aujourd'hui, parce que oui, évidemment, c'est même le pur présent. Et donc, ouais, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça à ce moment-là, quoi.
Et c'est génial, donc, d'avoir déjà quand même cette casquette de... Enfin, d'avoir une idée de comment communiquer.
Ouais.
Et ensuite, pour proposer à l'inverse un truc aussi intime, mais d'avoir les deux, ce qui est quand même
de fou.
Rare.
Moi, je suis trop fan des concepts, en fait. J'aime trop me dire, vas-y, en fait, autant dans ce que tu proposes aux gens, c'est-à-dire que les gens vont retenir. Tu vois, moi, il y a plein de gens, des fois, en soirée, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on était à la nif d'un pote, donc on était une tablée de 15. Et genre, en fait, je voyais des gens qui me regardaient bizarre, en mode, putain, j'ai déjà vu sa tête et tout.
Je le connais.
Et y a un mec qui dit, excuse-moi, un moment, tu vois, il est au dessert, tu vois, il attend tout le repas. Il dit, excuse-moi, mais je crois que je t'ai déjà vu quelque part et tout. Et je lui dis, ouais, tu m'as peut-être vu dans un lit. Et genre là, bam, ça a décoché. Il fait, ah oui, le studio blanc dans un lit, nanana. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est des trucs où genre, tu retiens directement, quoi.
L'image, elle marque.
Exactement.
Ouais,
et je trouve que même pour les invités, c'est cool parce que les atmosphères sont différentes, tu vois, quand je vais, en fait, tu vois, là, on est autour d'une table, tous les deux. C'est déjà pas pareil s'il y avait une troisième personne.
Mm.
Et ce serait encore moins pareil si on était dans un lit allongé.
Mm.
Parce que ça veut dire que, tu vois, je serais peut-être moins avachi. Ou, tu vois, en fait, tout est différent. L'énergie est pas la même et tout. Et tu mets dans une atmosphère complètement différente.
Bah,
s'il y avait des gens qui nous regardaient là alors qu'on est que tous les deux, c'est pas pareil non plus.
Ça, c'est pas pareil. Et c'est réfléchi et c'est intentionnel. Alors, ça crée des galères parce qu'à un moment, comme tu le racontais, j'avais une petite nana qui bossait avec moi. Mais elle restait pas pendant l'entretien. Au tout début, il y avait un gars qui m'aidait à produire le podcast et il était là. Et en fait, c'était pas la même discussion. Et maintenant, j'y tiens. Être seule avec l'invité, sauf à part exception de... j'en sais pas, invité qui tient à avoir son meilleur pote qui est de passage à Paris. Enfin, tu vois. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est chouette.
Et parce que le concept, c'est qu'on ken à un moment, c'est ça?
Exactement.
J'ai vu le titre.
C'est pour ça que le lit n'est pas là. Le lit est juste derrière.
Trop bien, ok. Mais c'est vrai que c'est moins gênant que de le faire juste à deux, plutôt que d'avoir un public et tout.
Écoute, on aurait pu le filmer. Après tout, je crois qu'on t'a filmé te faire masser en écoutant de la ASMR.
C'est vrai. Et j'ai filmé, parce que tu l'as pas dit, mais je suis réalisateur porno aussi.
Oui, tu as fait un film porno.
Dans des casquettes.
Mais ouais, c'est incroyable, ça fait beaucoup trop de casquettes. Et ça, par contre, tu précises bien aux gens que c'est juste un film porno, tu recommenceras pas l'expérience
après. Et je précise aussi aux gens qui l'ont pas vu que je suis réalisateur. Oui. Parce qu'en fait, ça, je l'ai teasé pendant très longtemps, je l'ai teasé pendant un an et demi. Et il y a trop de gens qui avaient pas compris, qui disaient, mais t'as pas peur qu'on te voit à poil, que les gens partagent des photos de toi nu et tout. Genre, attends, la démarche, c'est pas ça.
Ouais.
Mais oui, je vais en faire qu'un. Je pense que je vais en faire qu'un.
Ah ouais, mais c'est trop bien cette faculté à se renouveler et donc à investir les réseaux. Et donc d'abord, ta première casquette, c'est YouTuber.
Ouais.
Et la deuxième casquette, après, c'est auteur. Et ensuite, t'amènes les shows, tu les déplaces parfois dans des endroits publics lors de grands événements, dans des théâtres. Et aussi, tu mets des extraits. C'est quoi ton utilisation d'Instagram, TikTok?
Insta, mon utilisation, c'est vraiment à la base juste m'amuser avec les gens qui me suivent vraiment, mon cœur de cible, tu vois, qui mon cœur de communauté qui se dit je le suis sur YouTube mais je m'intéresse vraiment à lui donc on va se marrer. Donc moi c'était plus à la base d'avoir un rapport direct avec les gens que t'as moins sur YouTube, tu vois, c'est plus en différé. Alors que là tu peux discuter réellement
et poser
DM,
les questions auxquelles tu réponds, ok.
Exactement, tu peux même donner les coulisses un peu des émissions et tout. Donc c'était ça. Et puis après j'ai passé les 100 000 abonnés en faisant rien. Et du coup, il y a des marques qui ont commencé à me contacter et tout. Et je me suis dit, ah ouais, donc ça veut dire que je peux commencer même à faire des partenariats sur Insta qui me financent mes émissions pour ne pas avoir de placement de produits sur mes émissions. Donc là, c'est devenu un peu un business model.
Mmh.
Et j'ai toujours pas le ligne éditoriale.
Peut-être pas besoin, ouais.
Bah, ouais. En fait, là, ma stratégie, c'est de me dire et comment je peux commencer à proposer même du contenu exclusif sur Insta.
Ah,
donc là, je commence à faire ça, tu vois, à mettre en place des émissions, tu vois, des formats qui sont pas juste des déclinaisons d'extraits et tout de mes vidéos, mais qui est vraiment un truc que tu vas retrouver que sur Insta.
De faire genre un reel pour une marque et pas forcément, t'en parleras pas forcément dans...
Exactement, et même pas que pour une marque. Même là, je suis en train de réfléchir à des formats que je vais faire, pourquoi pas avec des abonnés et tout, que c'est juste on se fait kiffer, voilà.
Genre des lives, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lives Insta en
ce
moment.
J'en ai fait un moment.
Ouais.
Pendant un moment, je faisais des lives. En gros, je sortais mes vidéos le dimanche à 18h et je faisais des lives le dimanche à 17h.
Okay.
Et en gros, à la fin, il y avait genre 1000 personnes, tu vois, et ces 1000 personnes-là, je disais, bon, bah voilà, maintenant on se retrouve sur YouTube.
Trop bien.
Et je les faisais basculer dessus. Et donc, ça créait pas mal d'engagement parce qu'il y avait un peu une team Instagram, tu vois, des gens qui mettaient leurs commentaires. Donc, genre, je partais avec 150 commentaires en début de vidéo. Donc, YouTube aimait bien. Et après, j'avoue que ça m'a un peu fatigué. Et puis, j'étais à l'arrache sur les sorties de vidéos. Donc, tu sais, t'as pas le temps de les sortir et tout. Mais là, j'hésite à me lancer sur Twitch, là. J'ai envie de faire des radios libres.
Ouais, ça te manque pas. Parce que donc, il y a Insta, il y a TikTok. TikTok, tu mets le même des
TikTok,
petits bouts.
Vraiment, on est sur un bébé TikToker.
Okay.
Pour l'instant, je mets des extraits, mais je m'en occupe pas trop, quoi.
Ouais, tu relais. Et Twitter, t'as Twitter?
Non.
Non.
J'ai eu Twitter à un moment et je l'ai supprimé.
Ouais, trop ça l'ambiance.
J'ai un compte qui existe, donc tu peux me mentionner pour dire que je suis la pire des merdes, mais je le verrai jamais.
Et Twitch, alors Twitch, c'est quand même aussi... Ouais, ça peut être une force de frappe, il y a des gens sur Twitch.
Bah ouais. En fait, c'est déjà, c'est clair que c'est en train de s'ouvrir de fou. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens avant ma communauté qui se disaient on va pas aller sur Twitch, c'est très gamer et tout. Mmh. Et déjà, ça s'ouvre de plus en plus chaque année. Et moi, le live, je kiffe vraiment. Et donc, jusqu'à maintenant, en fait, je vais plus sur les lives de mes potes, tu vois. Donc, je vais sur un show qui s'appelle Popcorn, présenté par Domingo. J'y vais demain soir, là, au moment où on enregistre. Et c'est plus un prétexte d'aller sur Twitch sans vraiment y aller, tu vois. Mmh. Parce que c'est beaucoup de taf, faut être régulier et tout.
Ouais.
Et en même temps, moi j'aime trop le live, j'aime trop ce que ça crée et je suis un enfant un peu des radios libres, tu vois.
Ouais.
Et je trouve que ça manque aujourd'hui de radios libres qui se renouvellent.
Ouais, de
participation. C'est-à-dire moi je trouve ça trop triste, j'ai ok une anonymosité envers eux, mais tu vois je trouve ça trop triste d'allumer Skyrock à 21h et d'entendre 10 foules qui doit avoir plus de 50 balais, tu vois, et qui fait les mêmes vannes, les mêmes trucs d'il y a 20 ans, tu vois.
Ouais.
Tu dis waouh putain c'est un peu triste, et donc je trouve que ça manque un petit peu de ce truc-là.
Ouais.
Et Twitch ce serait cool de pouvoir le faire.
Mais ouais, et puis en plus, ça serait bonne ambiance parce que si c'est. T'as justement réuni des gens un peu avec le thème de la vulnérabilité, de pas avoir peur, etc.
Ouais.
Donc t'imagines que ça serait plutôt. Bah, si c'est ces gens-là qui vont sur Twitch, c'est cool, ils sont choux. Enfin, c'est pas.
Ouais, de fou.
Ce qui peut faire flipper un peu dans le live, c'est d'un coup devoir réagir en direct à des commentaires un peu haineux.
Ouais,
mais
ouais.
Bon, j'imagine que tu rencontrerais pas trop ça.
Je sais pas, ou en tout cas après t'as une team de modérateurs, t'as
ouais,
tout ça.
Ouais, voilà, il faut avoir
puis
des
après,
modérateurs.
Après tu réagis à... Je l'ai fait sur Insta, tu vois, sur Insta t'as des gens qui se perdent aussi des fois, tu vois.
Ouais.
Mais
ça se gère,
mais
ça s'anticipe.
Et puis tu lis les commentaires que tu veux aussi à un moment.
Ouais, 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 bien sûr.
Mais voilà, donc là c'est un peu l'organisation, je suis en train de monter mon studio et tout pour voir, pour tester un peu.
Parce
qu'il y a une petite orga technique aussi.
Oui, 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 pour te dire, pour relier en direct ce que vous ferez au fait que ce soit sûr de connecter
ouais,
le stream.
Et puis tu vois, la radio libre, ça veut dire qu'il faut monter un Discord, il faut pouvoir passer les gens en live aussi, mais il y a tout un truc de, est-ce qu'on caste les gens avant ou pas pour l'émission. Il y a un truc où j'ai envie de faire du multicam aussi. Donc le multicam, c'est comment t'installes tout le setup. Il faut avoir un deck pour lancer tes raccourcis clavier, tes trucs de à quel moment je me mute, comment je passe d'une cam à l'autre, tous ces trucs-là.
Ouais, une vraie émission, et résultat, tu ne serais pas tenté, vu tous ces moyens, de faire un live YouTube en même temps que le live Twitch, ou non, tu te dédierais
à
Twitch ?
C'est ma grande question.
Ouais.
J'arrive pas à savoir si le live YouTube marche ou pas.
Ouais, pas trop, je sais pas.
J'en vois pas trop, en fait.
Non, pas, ouais, j'en ai fait un avec Paul Taylor, pour sa chaîne, où il dit que c'était un live YouTube...
Ouais.
C'était chou, c'était sympa, il y en avait quand même quelques-uns. Je sais pas s'il y avait énormément de monde. Je crois que les gens sont plutôt allés regarder la vidéo après.
Ok, ouais. Ouais.
Ouais. Bah, c'était McFly et Carlito qui a fait ce fameux live de folie.
Oui, c'était pour leurs 5 millions, non ?
C'est ça. Ouais, sur toute une journée, sur 24 heures.
Ouais, c'est possible.
Ouais, c'était assez dingue.
Mais en événementialisant, je pense que ça marche. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est un peu compliqué, quoi.
Et tu t'es pas dit, tiens, je vais faire comme dans mon lit, c'est-à-dire faire un partenariat avec une chaîne de télé, France TV Slash ? Non ? T'as voulu, tu veux rester en Indé ?
Ouais, bah en fait, je l'ai fait pour Insomnie.
Ouais.
Je l'avais fait pour Affronte tes peurs. On avait fait 5 épisodes ensemble. J'avais fait beaucoup de capsules comme ça. J'en avais fait une autre émission qui s'appelle Première rencontre,
mm-hmm.
où je suis dans un studio dans le noir. Et je rencontre pour la première fois une personne qui vient s'installer devant moi. En gros, j'attends et il y a une personne qui arrive, qui s'installe en face de moi. Et j'ai une carte avec une catchphrase qui est le résumé de l'histoire qu'elle veut me raconter. Et c'était que des trucs un peu sensationnels, tu vois, de trucs un peu deep, mais qui finissent toujours bien. Donc il y avait genre, je me retrouve avec un gars en face de moi et je tire la carte et il y a marqué « J'ai survécu au Bataclan », tu vois. Et je suis en mode « Waouh, ok ». Ou « J'avais 1% de chance de vivre » ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça, on en avait fait 5. On avait fait 5 et en fait c'est cool. Moi j'aime bien ces partenariats, j'aime bien France TV Slash.
Ouais.
Insomnie, c'est vraiment le plus gros partenariat qu'on a fait ensemble parce qu'on a fait 45 émissions
quand
même.
Ouais, c'est
énorme. Mais je crois que je suis trop attaché à mon
indépendance.
Ouais. Et on arrive à un stade où même, enfin tu vois, c'est horrible, mais même en termes de budget, c'est plus intéressant de le faire chez moi parce qu'on arrive un peu aux limites aussi, tu vois, des budgets des chaînes et tout.
Ouais,
c'est ça.
Ouais.
Et donc, bah, en fait, ça fait quand même beaucoup plus de pour de le faire sur ma chaîne, de trouver une marque qui finance, où je vais me faire plus d'argent, où je vais avoir plus d'indépendance dans ce que je veux faire, plus de liberté, tu vois, sur ce que j'ai envie de raconter, sur les invités, sur la DA de l'émission, sur tout ça, quoi.
Ouais, et donc tu dirais que t'as plus de liberté avec des sponsors qui sont des marques qu'avec une chaîne ?
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, bien sûr, de fou.
Ok.
Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas, tu vois, au début, quand France TV, je leur ai vendu les 5 premières émissions Insomnie. Mes partenariats n'étaient pas les mêmes, ça n'avait pas les mêmes tarifs et tout, donc j'étais hyper content de bosser avec eux.
Mmh. Oui, ça a baissé, ils ont pris énormément aujourd'hui de production, et donc résultat, ouais, bien sûr, tu peux
pas... Et en fait, leurs prix n'ont pas forcément baissé, mais c'est les prix de YouTube qui ont augmenté, entre-temps, ouais. Et moi, qui, enfin, les prix de YouTube ont augmenté et moi surtout, je
tout
pense que...
Tout le monde d'abonnés a grossi, c'est et ça, ta force en fait, de frappe. Ouais.
C'est ça, quand j'ai signé avec eux, j'avais 45 000 abonnés, tu vois. Mm. Et on est plus de 500 000, donc évidemment, mes tarifs n'ont rien à voir, tu vois.
Mais bien sûr. Et tu choisis en priorité donc, des partenariats que toi, tu deals en direct ou tu actives quand même pas mal la monétisation YouTube
J'ai la monétisation YouTube, ouais. Je ne vis clairement pas là-dessus, mais ça, franchement, ça a commencé à rapporter un petit peu. Mais en plus, moi, vu que j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de sujets sensibles ou qui ne sont pas annonceurs-friendly, bah, je suis... pratiquement je suis à 90% démonétisé tu vois donc je gagne pas d'argent donc j'ai des vidéos qui font des millions de vues où je gagne pas un seul centime
parce qu'il y a marqué sexualité dedans
exactement ouais. Bah la vidéo où je raconte comment et pourquoi j'ai réalisé un porno par exemple évidemment que j'ai rien gagné dessus quoi.
Ça c'est rageant quand même
donc après c'est plus les marques qui me financent
ok et financent les marques elles sont pas frileuses sur les sujets de la sexualité
ça dépend lesquelles Dorcel non avec qui j'ai bossé.
Putain, c'est toi qui m'as appliqué un plan Dorcel parce qu'ils m'ont contacté ? Non, ils doivent chercher plusieurs plans. Et genre, je leur ai proposé un tarif pour un partenariat dans le podcast et sur Insta.
Okay.
Et puis ils ont dit, ouais, on est super intéressés, on adore Rosa, mais on va aller avec une autre influenceuse. C'est toi ?
Je ne suis pas l'autre influenceuse. Non, moi c'est dealé depuis 2 ans.
Hein. Ok,
On a mis du temps, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de le sortir.
Ok.
Ouais. Mais après, tu vois, il y a plein de marques. Je pense que moi, il y a des gens avec qui j'ai pas travaillé, mais Passage du Désir ou Lilo, tu vois, des marques de sextoys, des trucs comme ça. Je pense qu'ils sont ouverts à ce genre de partenariat où là, tu parles de sexualité, évidemment. Et des applis de rencontre, peut-être un peu, mais quoique sexualité pure, non. Et après, moi, je bosse avec plein de marques, je kiffe, tu vois, là, je bosse avec Spotify, j'adore, c'est trop bien.
Ouais.
Et j'ai le luxe que je me suis toujours octroyé, mais aujourd'hui, je peux le faire sans avoir besoin de manger des pâtes, d'avoir pas mal de propositions, donc je peux accepter les marques qui me plaisent, où je partage mes valeurs, etc. Parce que moi, déjà, c'est plus facile de bosser avec des marques où je suis chaud, tu vois, où j'ai pas besoin de mentir et tout.
Mmh.
Et puis ça se vend plus facilement aux gens, tu vois.
Mm.
Et puis surtout, je me fous pas de la gueule des gens, quoi.
C'est sincère.
Aussi, je sais que les gens vont kiffer. Etc.
Oui, tu fais un tri et c'est sur la longueur. Fruits, ça fait longtemps que j'adore. Tu travailles avec eux.
Au maximum, j'essaie de faire des partenariats sur plusieurs vidéos parce que les one-shots, c'est fatigant. Je trouve que c'est moins efficace. Et moi, je suis un peu, tu sais, t'as plusieurs business models. T'as le business model que j'appelle un peu télé-réalité.
Mm-hmm.
L'idée, c'est de prendre des petits tarifs mais d'en faire plein.
Mm-hmm.
Donc, t'en fais, tu vois, c'est les gens de télé-réalité, tu regardes une story sur Insta la journée. Il va y avoir 3-4 placements de produits.
Ouais.
Donc, ils vont être moindres en termes de tarifs, mais par contre, l'impact est quand même moindre aussi. Moi, je préfère en faire moins, ne plus me concentrer dessus, et puis que les gens se disent, quand ils pensent à la marque Ben Never, ils disent, on visualise Fruits, on visualise Spotify, tu vois.
Genre,
on sait plus tellement il y en a, quoi.
Ouais, c'est trop la classe, Spotify.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est
franchement,
génial.
C'est trop bien. Ça me permet de continuer à faire des émissions de la même manière et d'être financé pour le faire, donc c'est cool.
Ouais, bien sûr, et donc d'être entièrement libre. Parce que là, France TV Slash, par exemple, est-ce qu'ils jouent sur l'édito ? Ils ont pu, genre, t'empêcher de recruter certains invités ?
Ah ouais, de fou, tu vois, France TV Slash, on a fait 45 émissions, donc 45 invités.
Ouais.
Et on a dû proposer plus de 200 noms en tout, tu vois.
Ah ouais !
Ouais, avec des oui ou non arbitraires aussi, tu vois. Un non qui devient un oui 3 semaines après, mais t'es en mode, cool, mais en fait...
Pourquoi ?
Non, sans raison. Il n'y a pas de justif.
Ouais, les chaînes, c'est juste le fonctionnement d'une chaîne, c'est tout de suite plus lourd.
Tu sais, t'as des trucs en interne, nous, on n'est pas au courant de telle invitée, on l'a déjà sur cette émission. Ou alors, je sais pas, il y a des trucs en interne, c'est des gens qui se prennent la tête et tout.
Oui, elle est concurrentielle à elle qui est sur notre série. On veut d'abord que ce soit des gens qui sont de l'écurie.
Et puis même, il y avait un truc qui me plaisait moins avec France TV Slash, c'était de pas mettre en avant des talents qui allaient percer, tu vois. Mmh. Moi, je leur disais, putain, là, tu vois, c'est un peu, tu sais, le truc de la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock.
Ouais.
Bah là, c'était un peu le truc de dire, lui, il va percer, je le sens. Il faut qu'il vienne sur Insomnie.
Ouais.
Et parce qu'après, on sera les premiers à l'avoir eu.
Ouais.
Et à chaque fois, ils disaient non. Et il y en a eu plein qui ont percé.
Tu veux dire que t'avais suggéré Paul Mirabel avant.
Putain, Paul Mirabel, c'est trop drôle. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'habitais rue Keller. Et c'est la rue du... Comment il s'appelle ? Il y a une scène ouverte qui s'appelle le Mob Hotel ? Non, pas du tout. Le Motel Comedy Club. Et j'ai vu Paul Mirabel, on était genre 10. Et j'étais en mode, il est gaulerie ce mec. Et c'est là que j'ai compris qu'à Paris, tu voyais avant tout le monde les humoristes ou après tes potes de camp allaient te dire, ouais, j'ai vu ce gars-là à la télé, c'est incroyable. Et je suis en mode, ça fait trois ans que je le connais, ok ? Je l'ai vu, il n'y avait personne.
Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, ça, les nouveaux talents, c'est vrai que c'est cool. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Moi aussi, c'est ce que j'aime bien sur le podcast. C'est vraiment les nouveaux talents ou les gens, entre guillemets, pas bankable. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, c'est sûr, des noms où d'un coup, comme ça te dit rien. Mais en fait, Si je te dis Elisabeth Feiti, ça te dit rien?
Non.
Bah non, mais en fait, son podcast Métas de choc, c'est l'un des plus gros podcasts français sur la métacognition, okay. quoi, qui a déjà 5 millions de téléchargements. Okay. Et en fait, voilà, parfois, quand toi, t'es fan d'un truc, et ben en fait, à la manière de le défendre, ça aura plus d'écho. J'imagine que tu l'as vu justement sur Insomnie, parfois, que c'était pas forcément les invités les plus connus, où t'avais le plus de derrière de messages, de retours.
Bien
ça,
sûr,
ça dépendait du témoignage.
C'est pas forcément les gens les plus connus qui ont les plus belles histoires à raconter non plus. Quoi. Donc ouais, il y a des témoignages qui sont incroyables et même sur ma chaîne, tu vois, il y a des témoignages incroyables que j'ai eu où c'était pas forcément des gros guests, tu vois.
Ouais. Je me demandais comment tu fais avec en étant aussi sincère et ouvert en lisant tous les commentaires, à savoir de temps en temps, est-ce que par exemple tous les DM qu'on t'envoie sur Insta, tu y réponds à tous?
Non.
Non. Ouais.
J'essaie de lire au maximum.
Ouais.
Mais en vrai, je réponds pas à tous.
C'est
déjà
trop.
Parce que je peux plus.
Bah ouais.
Vraiment, il y en a beaucoup trop. Et j'ai mis longtemps avant d'arrêter de culpabiliser de pas répondre aussi aux messages. Parce qu'il y avait un truc aussi que je me disais, ah, les gens ils prennent le temps d'écrire, putain, pourquoi je prends pas le temps et tout. Et déjà, par exemple, tu vois, sur les commentaires YouTube, je me suis rendu compte qu'au début, j'étais en mode, ah, mais si je lui réponds pas, ça va être horrible et tout. Et en fait, rien que le fait de mettre un petit cœur, tu vois, ça montre que j'ai lu, que je kiffe et tout. Donc j'essaie de le faire un petit peu sur Insta aussi. Et c'était quoi ta question?
Bah, c'est la distance, parce que même le petit cœur,
ah oui.
En vrai, même parfois moi aussi, à mon humble niveau, je viens d'atteindre les 38 000 abonnés sur Insta, je suis très très contente.
Stylé.
Mais je vois qu'il y a un petit décalage entre ma petite notoriété, mais le compte, comme ce que je propose est très intime, les podcasts, etc., bah parfois, il peut y avoir des gens très intenses et donc ils vont m'envoyer un premier message genre sympathique, cool, genre bravo, merci pour ce que tu postes. Et donc je suis en mode, bon, trop sympa, donc je cœur. Donc
ouais.
Il a vu, et là, derrière, c'est en fait, je suis schizophrène et j'ai envie de me suicider, etc. Et là, t'es en mode, ouch,
ouais,
maintenant, que fais-je?
Ouais. Alors moi, j'ai plusieurs trucs là-dessus. Par message, j'avoue que c'est moins gênant parce que je les vois plus arriver maintenant. Et en vrai, je suis rarement seul en physique, je veux dire. Donc ça m'arrive souvent à des événements, des trucs, c'est celui que j'aille à un concert, de trucs et tout. Et ça, j'avoue que c'est souvent mon entourage qui capte et qui est un peu rodé à ce truc-là. Donc souvent, en vrai, je réponds, tu vois, on n'écarte pas les gens, on fait pas genre, allez, casse-toi, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des gens très deep qui arrivent et qui me prennent un peu pour leur psy. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis maintenant directement. Je dis, bah en vrai, je t'avoue que... je pense que le mieux, c'est d'aller voir quelqu'un de neutre qui... Moi, je vais pas te régler un souci dans un concert entre quatre phrases comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, mais ça reste une énorme minorité, qui pensent que je suis en émission tout le temps, tu vois.
Ouais.
Que toute ma vie, c'est être en émission.
Ouais.
Et que quand il est 2h du mat et que je suis dans un bar, on me dit, toi, du coup, alors, par rapport au fait que je suis en couple avec mon mec depuis hyper longtemps, et t'avais parlé de ça, mais ce serait cool d'en reparler, nanana.
Ouais.
Je suis en mode, bah là, juste, je suis en train de déconnecter mon cerveau et c'est les moments qui me permettent d'être bien en émission, parce que là c'est trop quoi.
Bah ouais, non, c'est clair.
Mais je sais pas s'il y a
une solution,
une recette magique là-dessus quoi. L'avantage que j'ai, c'est que je pense qu'il y a, franchement, moi dans ma communauté, il y a quand même beaucoup de gens qui sont hyper réfléchis, qui font la part des choses. Les trois quarts des gens qui me reconnaissent dans la rue viennent pas me voir, ils m'envoient un DM sur Insta derrière en mode, ah, je t'ai croisé, j'ai pas osé et tout. Et les gens qui viennent me voir, souvent, ils sont trop mignons, tu vois.
Oui.
Mais ouais, ça, je crois que ça arrive, et plus ça va, plus ça arrive, parce que proportionnellement,
ouais,
tu vois,
oui,
t'es suivi,
bien
voilà.
Sûr.
Mais j'avoue, j'ai jamais eu trop de... Tu vois, là, ça va faire 5 ans que j'ai ma chaîne, des moments vraiment creepy, j'ai dû en avoir une quinzaine, tu vois.
Ouais.
Donc c'est pas énorme, en fait, par rapport au nombre de photos ou de rencontres que j'ai fait avec des gens.
Ouais.
Mais ouais, les premières fois, c'était bizarre.
Ouais.
La première fois, c'était bizarre. Et moi, j'essaie de pas trop avoir le syndrome du sauveur aussi, tu vois. Où direct, tu dis, OK, la personne me fait confiance et tout. Et en fait, non, tu te rends vite compte qu'il y a une vraie responsabilité, en fait.
Ouais.
Et que souvent, ta responsabilité, c'est de pas répondre, en fait. Parce
qu'une
fois que t'engages ta responsabilité en répondant, bah derrière, faut assumer, tu vois. Et des gens, tu vois, c'est autant des gens qui ont des maladies, comme tu dis, en mode, je suis schizophrène, est-ce que tu peux m'aider sur ce truc-là? T'es en mode, bah, je suis pas du tout habilité à faire ça.
Ouais.
Mais des fois, je reçois des vrais appels à l'aide de suicide ou des trucs comme ça, tu vois.
Ouais.
Et au début, bah, tu te dis, putain, est-ce que moi, si je réponds juste mon message, ça va aider?
Ouais.
Et en même temps, une fois que j'ai répondu, quelle est ma responsabilité là-dedans? Comment je, tu vois?
Ouais.
Et surtout, tu connais pas les gens, tu sais pas faire la part des choses entre des gens qui essaient juste d'attirer ton attention, des gens qui sont vraiment en détresse.
Et t'es pas psychiatre.
Et je suis pas, c'est pas mon métier non plus.
C'est clair.
Ouais.
Mais c'est hyper délicat, c'est comme sujet. Après. Attends, autre question aussi, comment tu fais pour détecter les courtisans, c'est-à-dire les gens qui sont juste simplement intéressés par toi professionnellement? Parce que moi, parfois, je me demande, de plus en plus, avant, c'était facile à détecter, genre les gens qui voulaient devenir mes amis un peu par... alors, en fait, le problème, c'est qu'au départ, je me vexais pas parce que j'étais flatteur. Je te demande, oh putain, le podcast commence à bien marcher,
bien sûr.
Tu vois.
Bien sûr.
Et donc maintenant, j'ai compris, ah, t'es un peu ami, tu me réponds, tu mets des commentaires sur Insta parce que t'as envie de venir à mon podcast. Ouais. Ok, je capte. Mais parfois, même maintenant, j'ai l'impression que, genre, je crois que je me fais draguer. Et en fait, non, c'est des mecs qui veulent venir dans mon podcast.
Ok.
Ouais.
Ok. Putain, c'est drôle.
C'est une bonne nouvelle pour le podcast.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour le podcast.
Voilà,
c'est une moins bonne nouvelle si tu pensais qu'il y avait moyen avec des mecs qui t'intéressaient. Mais
en fait, non.
Mais tant mieux, parce que si c'est juste des gratteurs, il vaut mieux pas sortir avec.
Exactement.
Non, c'est une très bonne question, parce que pareil, moi j'ai vu tout ce truc-là où je suis arrivé à Paris avec 10 000 abonnés et j'existais pas, tu vois. J'ai vu plein de gens où j'ai commencé à exister à leurs yeux à partir des 100 000 abonnés, bizarrement. Donc après, sur ces gens-là, quand tu vois l'avant-après, tu fais la part des choses, donc tu sais que c'est par intérêt. Tu vois comment ils te traitaient avant et tu vois comment ils te traitent aujourd'hui. Après, sur les nouvelles personnes, j'avoue que c'est trop bizarre. J'ai des phases où je suis hyper parano parce que j'ai l'impression que tout le monde me parle par intérêt. Il y a un truc qui est mi-agréable parfois, c'est que en fait, tous les gens que tu rencontres, ils sont tous hyper sympas.
Mais oui.
Donc t'as l'impression que t'as moins d'efforts à faire qu'avant. Tu te dis putain, en vieillissant, je deviens de plus en plus stylé.
Ouais.
Pas du tout, c'est que vraiment.
Plus connu.
Voilà. Exactement. Ouais. Et ben en plus, ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression d'avoir moins besoin de montrer qui t'es.
Ouais.
Parce que les gens, en plus, quand tu partages des trucs un peu perso, tu vois, les gens ils te connaissent déjà, donc ils sont déjà en affection entre guillemets pour toi. Ils sont putain, on est pareil là-dessus, etc. Et en même temps, ça crée la parano des fois de se dire. Est-ce que les gens me parlent, en effet, pour avoir un truc ou pas, quoi.
Mmh.
Après, plus ça va, plus j'ai l'impression de déceler ce truc-là.
Mmh.
C'est-à-dire que plus ça va, plus je me rends compte que les gens sont assez peu subtils.
Ouais, c'est
chose
vrai.
Que je voyais pas forcément avant, mais en fait tu les vois arriver là.
Ouais, c'est vrai que parfois tu dessines ça. Moi, résultat, je me dis, cette personne est trop gentille, puis cette personne m'a invité à une soirée, cette personne veut faire Noël avec moi, ah, cette personne veut se lancer dans le stand-up,
bien sûr.
Et en fait il veut, elle ou veut des conseils, et voilà, que je lui donne les plans et tout,
bien sûr. Et après, tu vois, il y a des gens des fois qui arrivent avec leurs gros sabots, tu vois, et je suis en mode vas-y, en vrai c'est pas grave.
Ouais, au moins c'est sincère. Moi, je préfère quelqu'un avec les gros sabots en mode comment on fait plutôt que quelqu'un qui on a machin et machin,
qui
tu sais, les gens, tu sais pas pourquoi faut qu'on aille prendre un verre, mais explique-moi pourquoi,
bien
parce
sûr.
Qu'en vrai on ne se connaît pas.
Le nombre de gens qui me proposent des verres tous les jours, déjà j'ai pas le temps, et puis en plus vraiment très bizarre d'aller juste prendre des verres avec des gens que tu connais pas. Donc des fois il y a des connexions qui se font où ça paraît assez logique tout, mais c'est vrai que j'ai presque envie de dire aux gens, monter des podcasts, comme ça je viens, tu vois, directement. Il y a un truc pour... je crois que d'ailleurs, faire des interviews, c'est le truc qui, moi, m'a apporté le plus de réseau. Parce que ça aurait été trop bizarre, tous les gens que j'ai rencontrés à travers le podcast, que je leur dise, viens, on va boire un verre.
C'est très chelou,
C'est fou.
Bah oui, moi, je suis bien contente d'avoir mon podcast pour ça. Et c'est vrai que non, prendre des verres, vas-y, monte ton podcast, fais ton petit montage, et là, on ira papoter, quoi.
Ouais.
Et bien, justement, je rentre dans le quiz de ma copine Manon, du compte Le Cunu. Et donc ensuite, on peut évidemment partir en freestyle à partir de ces questions. Mais Ben,
dis-moi,
comment appelle-t-on la petite ligne de couture visible sur la peau des testicules? L'ourlet?
Il y a des propositions. Ça allait partir en quiz. C'est le cas de le dire, énorme.
L'ourlet, la couronne perlée, le rafé ou le rafistolage?
Alors, j'aimais bien le troisième.
Le rafé?
Ah non, j'aimais bien, pardon, le deuxième.
La couronne perlée.
La couronne perlée, elle est cool, mais en fait, vu qu'ils ont fait un jeu de mots, rafistolage, je pense que c'est le rafé, du coup.
Bravo! Tu peux cliquer sur ton petit button.
Oh oui!
Oh mon dieu.
Je crois que je l'ai fait trop près du micro, je suis désolé pour tout le monde.
C'est des gens qui sont sourds, et là, désolé, c'était la dernière fois que vous avez entendu un bruit. Le rafé est une ligne de jonction entre deux organes. S'il est présent sur les testicules, c'est parce qu'il aurait marqué le bord des grandes lèvres si le bébé était né avec une vulve, tout
simplement.
Incroyable, tu le savais?
Ouais. Bah en fait, si tu regardes la nature...
Ouais, je suis née avec une vulve.
Bien sûr, à la base j'ai juste cousu le truc.
D'accord.
Non, cousu d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, si tu regardes comment est fait un pénis et comment est fait une vulve, et même avec le clitoris, avec tout, tu vois, en fait, tu te rends compte que c'est juste une tub, quoi.
Incroyable. Qu'est-ce que la polytélie? Le fait de pouvoir avoir plusieurs partenaires dans une relation?
Non.
La capacité à avoir plusieurs orgasmes simultanément? Une malformation caractérisée par la présence de plusieurs mamelons? L'enfer. Un réflexe involontaire qui présente un blocage au niveau du vagin.
Oh, c'est très dur. Je crois que tous les gens qui ont fait le latin, ça paraît hyper simple. C'est polytélie.
Polytélie. Et ça n'a rien à voir avec la philatélie ni les timbres.
Ah, ok, ouais. Mais du coup, ça doit quand même avoir une base similaire.
Ça polie, c'est plusieurs.
Ah bah oui, plusieurs, bah, je pense que ça va avoir plusieurs orgasmes.
Et bah ça, je crois que c'est là le multi-orgasme. Alors attends,
multi-orgasme, bah, attends, mais c'est un truc de fou. T'as déjà eu plusieurs orgasmes ?
Non, jamais. Mais par contre, ça existe. Enfin,
Mais attends, c'est plusieurs orgasmes, c'est des orgasmes différents en même temps ?
C'est
à suivre ?
C'est à la suite, mais genre vraiment oui. avec pas d'écart de différence. C'est pas même, c'est juste il y a à peine quelques secondes, c'est vraiment enchaîné, 15, 20, 25 orgasmes.
Mais du coup, t'arrives à faire la différence entre avoir plein d'orgasmes d'un coup, enfin à suivre, ou avoir juste un très long orgasme ?
Ouais, bah oui, bien sûr. Parfois, tu peux avoir un très long orgasme avec un petit peu des petites secousses ou des machins, ou disons que c'est un plaisir quand même assez notable.
Ouais.
Et puis ensuite, t'as quand même ce soulagement et cette fatigue caractéristique. Et puis après, quitte à ce que plus tard, tu t'y remettes. Mais là, le multi-orgasme, c'est pas les petites secousses ni rien, c'est vraiment la sensation de l'orgasme. Et bam, 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 à la suite, pendant plusieurs minutes. Et paraît-il, c'est épuisant, ouais.
Ah oui, c'est trop.
Bah, c'est trop, à la fin en fait, ça pourrait continuer sans cesse. Et c'est toi qui décides d'arrêter, du stop.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, c'est un bouton on-off, quoi.
Bah enfin, tu quittes la situation, tu sors du navire, quoi.
Mais ça,
quoi.
C'est que chez les meufs ou les mecs aussi, ça existe ?
Ah, bonne question. Bah en fait, c'est dans Orgasmique, l'émission sur TVA là, que je fais, qu'on en a parlé. Et nous, c'est une meuf qui est venue en parler. Toi, t'as déjà eu un multi-orgasme ?
Je pense pas, non.
Et t'es déjà tombé sur une meuf qui a multi-orgasme avec toi ? Ne sois pas humble.
Non. Non, en fait, plusieurs orgasmes, oui. Mais je pense avec au moins une minute d'intervalle, tu vois.
Ouais.
Donc c'est pas un truc direct.
Ouais, je pense que si c'est une minute d'intervalle, ça rentre pas dans la
c'est
définition.
C'est deux orgasmes différents, quoi.
Je pense, ouais. Mais rapproché, c'est que tu faisais déjà du très bon travail. Figure-toi que c'est une malformation caractérisée par la présence de plusieurs mamelons.
Oh waouh, c'est beaucoup moins sexy que...
Ouais, il s'agit d'une malformation mammaire rare, caractérisée par la présence d'un ou de plusieurs mamelons, en plus des mamelons bilatéraux thoraciques. Genre vraiment, t'as plein de mamelons, quoi.
Mais plein de mamelons sur le même sein ?
Non, sur le torse.
Ah oui, d'accord, oui, hein, qui pop de nulle part, quoi.
Ouais, c'est dur, hein.
Bah après, c'est stylé si genre...
Si genre t'as plein d'enfants pour les allaiter.
Non mais c'est genre, tu sais, ils sont sensibles.
Ah ouais, en fait c'est plein de zones érogènes. Ouais. Et puis bon, il faut pas avoir peur de la différence. Toi, il y a un truc qui te complexe ?
Chez moi ?
Ouais.
Physiquement ?
Ouais.
Il y a plein de trucs qui me complexent. Moi, j'ai le nez cassé, donc pendant longtemps j'ai une bosse ici, donc j'ai pendant longtemps eu le complexe d'avoir un gros nez, quoi.
Alors qu'en vrai, c'est un peu stylé. Ça fait Adrien Brody a beaucoup fait pour les grands nez.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis il y a un côté un peu bagarreur, quoi.
Ouais.
Donc il y avait un truc alors que pas du tout. Puis tu vois des Vincent Cassel et tout. En fait,
ouais,
y a
ils ont des nez cassés, ouais.
De fou. Et non, après, pendant un moment, j'étais un peu complexé par ma maigreur, mais après j'ai vieilli, donc j'ai pris du poids. Pas forcément où je voulais, mais moi j'ai pris du poids.
Tu l'as
et,
pris où
j'ai pris 30 ans et il n'y a pas longtemps, donc c'est là, ça je les ai bien pris. Et du coup, depuis mes 29 ans, là, je commence à prendre plus facilement du ventre et des hanches.
Ah, des hanches, des poignées d'amour.
Alors en vrai, bon, on est très large, mais vu que jusqu'à maintenant, je pouvais manger à l'infini et ne jamais grossir, tu voyais mes abdos tout le temps, bah du coup, ça me fait un petit choc, quoi.
Ouais.
Donc je commence à me dire, mais c'est pas plus mal, hein, ça me permettra de pas mourir du cholestérol tôt, quoi. Mais du coup, je commence à faire gaffe à ce que je mange. Ouais.
D'accord, alors que pendant longtemps, t'as pu être complexé par ta minceur. Ouais.
Ouais. Parce que je brûlais les graisses hyper vite, quoi.
Ouais.
Donc non, il y a ça. Ma taille, pendant un moment, j'ai eu un traitement hormonal, donc j'étais plus petit que tout le monde et tout. Mais là, tu vois, je fais 1m69. Ça va. Tu vois, pour moi, c'est OK, tu vois.
Ouais,
je suis plus trop complexé. Ça, en fait, ça m'handicape pas dans la vie de tous les jours.
T'as eu un traitement hormonal à quel âge ?
À 11 ans. J'ai commencé le traitement à 10-11 ans, ouais. Pendant 6 ou 7 ans.
Putain, c'est chaud parce que c'est vraiment tout petit. Pour ta mère, ça a dû être dur, non ? Parce que quand tu vois ton fils petit, t'as envie de te dire bah, j'ai envie qu'il reste toute ta vie comme ça. Faut vraiment genre sortir.
Non, en vrai, non, parce que j'étais vraiment beaucoup plus petit que les autres. Et en vrai, c'est vraiment les pires années de harcèlement scolaire et tout, tu vois, parce que t'es un mec plus petit.
Ouais.
Et donc, du coup, t'as les meufs qui disent bah, toi, t'es mignon, t'es plus le copain. Mmh. T'as les mecs où t'es la personne la plus faible. Et donc, du coup, tu sais, ça commence à être un peu violent physiquement, verbalement entre les mecs, tu sais, pour montrer, c'est un peu, tu sais, le truc force, de meute, quoi. Ouais. Et donc, évidemment, c'est plus facile d'aller taper celui qui est plus petit. Mm. Donc, non, ça commence à être un peu handicapant socialement parlant. Donc, non, au contraire, mes parents, ce qui est ouf, c'est que mes parents, ils m'ont toujours laissé le choix de me dire, c'est toi qui prends ta décision, quoi.
Et si tu veux, on te découpe tes testicules.
Ouais. J'ai dit, ok, je sais maintenant, c'est ça que je veux.
Mais non, vous en vrai, c'était.
Mais non, c'était ça pendant 7 ans, où je me piquais tous les soirs.
Ouais, quand même, putain. Mais c'est marrant comment c'est fou comme les complexes d'enfance, bah, ça joue sur ta productivité. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, genre, t'es accouché de 273 émissions. Enfin, il y a un truc où ça donne une. Il y a un effet de compensation, de force, d'autres choses que tu développes quand t'as pas la facilité.
Ah ouais, de fou. De fou. Moi, j'ai développé mon savoir-être, ma répartie. Et ouais, après, t'essaies de devenir stylé par ce que tu fais, tu vois.
Hmm. Toi, t'as grandi à Caen avec toute ta famille.
Ouais.
Normand. Bah ouais, il y a des bonnes personnes à Caen.
Orelsan.
Ouais.
Terminé.
La meilleure, c'est clair.
Non, il y a un gros vivier de. En fait, il y a un gros vivier de talent, comme toutes les villes où tu te fais chier.
Ouais.
Parce que c'est l'ennui qui te fait créer. Et donc, ouais, t'as Fakir, t'as Superpose, t'as plein de gens stylés. Et puis, si tu ouvres la Normandie globale, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a Kinvé. Il y a Monsieur Poulpe.
Ouais. Le Mont Saint-Michel vous appartient-il?
Absolument.
C'est, ouais, bah, de toute façon, c'est un peu trop facile. Pardon, la question était formulée. Ok. Moi, à la base, je viens de Bretagne. Enfin, j'ai un quart breton et je passe souvent du temps en Bretagne.
Tu parles de l'endroit à qui le Mont Saint-Michel n'appartient pas, c'est ça?
Ouais, exact. Tu sais quoi, on vous le laisse. Franchement,
oui, franchement,
on a le golfe du Morbihan, c'est tellement beau.
Oh, je suis jamais allé.
Ah ouais, faut que c'est vraiment très très joli. Bah, c'est des étendues de terre dans l'eau et c'est des petites îles et c'est trop joli. Ouais, j'avoue que c'est un peu mon happy place, quoi, l'endroit où je me.
Tu te sens bien,
ouais. Ouais, ouais. Si je deviens très riche, j'achète une maison là-bas.
Parce que c'est cher?
Ah ouais, c'est cher.
Ok. Bah, c'est un peu huppé.
C'est un peu huppé parce qu'en plus, depuis le réchauffement climatique, enfin, ça, je sais pas si c'est vrai, mais il y a plein de gens qui achètent là-bas parce qu'il fait, il fait moins chaud que dans le sud.
Ok.
Donc, bien que ce soit. D'autres disent que ça va être submersible.
Bah oui, de fou. Ouais.
Mais en tout cas, il fait bon et en même temps, c'est un microclimat, c'est-à-dire que t'as l'avantage. Pardon, hein, mais il fait moins froid que chez vous.
Ouais.
Et même dans le golfe du Morbihan, comme c'est un peu fermé, t'as parfois l'eau est plus chaude et une végétation quasi un peu tropicale du fait du microclimat, mais avec quand même le côté breton un peu sauvage, quoi. Okay. Donc c'est joli.
Sûr, il y a un surnom, vous appelez les Canaries de Bretagne ou un truc comme ça. C'est comme il y a les petites Venises de chaque ville dès qu'il y a un cours d'eau.
C'est la petite Venise, ouais. L'île aux Moines, l'île d'Ars, c'est. Toi, tu sais, si jamais, genre vraiment, quel est ton projet si le jour où tu gagnes énormément d'argent, tu rêverais de les planter, c'est comment? Genre, c'est une maison.
Ouais, de fou.
Ouais.
Moi, j'ai envie d'avoir un endroit hyper stylé en Normandie.
Ok.
Autour de Caen, tu vois. Moi, j'ai un Wistram, donc au bord de la mer. Donc, j'ai tout fait, mon enfance, adolescence. Mon skatepark était sur le sable. Enfin, vraiment, tu vois, c'était ce truc-là. Et donc, je suis hyper attaché. Moi, c'est ma happy place, c'est là-bas. Et ouais, moi, j'aimerais trop avoir une baraque gigantesque où je peux accueillir tous mes potes, toute ma famille, tu sais, un vrai pied-à-terre, quoi.
Ouais.
Je copie Orelsan qui a vraiment fait ça, en fait.
Bah, il a vraiment fait ça, il a tellement raison. Ouais. Mais tu l'as vu ou pas, la deuxième saison de son documentaire? Ah ouais, déjà, attends, il faut que je m'y mette.
J'ai vu le soir même.
Waouh!
Ouais. Non, en vrai, c'est stylé. Orelsan, tu vois, on a 10 ans d'écart. Et moi, quand je faisais du skate et du BMX, lui, il faisait du roller au skatepark de Caen. Mmh. Donc, on le voyait un peu comme le grand frère. Lui, il commençait à faire de la musique et tout. Donc, j'ai vachement suivi ce truc-là parce que ça m'a parlé dès le début, autant dans sa musique que dans ce qu'il représentait, tu vois. Il y avait un truc de putain, les provinciaux, on est tous là, on connaît personne dans le milieu, personne dans les médias, on sort de nulle part, tu vois.
Ouais.
Et en vrai, il y a ce truc de, on représente un peu. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi à mon échelle, tu vois, dans ce que je fais, où je parle évidemment beaucoup de camps parce que je suis amoureux de cette ville, je suis amoureux des gens là-bas et tout. Mais ouais, pour moi, c'est hyper important de montrer aussi que tu peux sortir de nulle part et réussir. Tu vois.
Ouais, et c'est vrai qu'il y a ce côté assumer de parler de la loose et de la lenteur et du gris. Ouais, c'est vrai. Mais même quasi, ça fait un peu penser aux Belges. Tu sais, il y a un truc où c'est dans l'ambiance un peu nordique. Ouais, c'est sûr que c'est pas. La mentalité parisienne, c'est un peu particulier. Mais après, moi, je suis née à Paris, mais c'est vrai que c'est pas très créateur d'imaginaire. T'as mieux fait de te réfugier.
Après, préparé, t'as une émulsion de fou, tu vois.
Ouais, après, pour y vivre, c'est très cool.
C'est que, en fait, nous, dès qu'on. Enfin, on part tous de chez nous pour arriver à Paris, tu vois, pour faire des choses.
Oui, à
c'est
un moment.
Les success stories de Canet qui ont réussi à Caen, il n'y en a pas, tu vois.
Non, bien sûr, à un moment, il faut rencontrer les gens et les gens, tu c'est les ça. Rencontres à Paris, c'est ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Je vais poser une question bête, mais Trouville ou Deauville ? On a déjà la réponse.
enfin, en vrai, aucun des deux.
Hein ?
J'aime aucune des. Enfin, j'ai pas de
Trouville,
particularité. Ouais,
c'est
bien
beaucoup
sûr.
Plus beau.
Non, mais alors Deauville, oui, Deauville, c'est évidemment non. Tu
ouais,
vois,
non,
sur,
c'est
sur
un
tout.
Non.
Mais j'ai pas de.
C'est très bourgeois aussi, Trouville, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, c'est les Trouville, Grandville. Bon, déjà, nous, tous, tout finit par ville.
Ouais.
Je sais pas pourquoi on s'est pris. Ou
la fainéantise.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Je sais pas, on devait avoir un complexe et on s'est dit tous les villages, on va les appeler villes, ok. Parce que... et ouais, non, tous ces trucs-là. Bah en fait toutes les villes de Parisiens en fait finalement
ouais,
on y a
ouais,
tout
ouais.
Sauf des Normands là-bas quoi.
Bah ouais non
mais,
c'est sûr.
Mais
c'est
non moi je suis plus Ouistreham, Colville, Hermanville, Lyon-sur-Mer, toute cette petite côte là de place de débarquement
ouais,
où c'est
plus romantique.
Un peu moins touristique et où, en fait c'est là où j'ai grandi aussi en vrai, on va pas se mentir.
Ouais, des grandes dunes.
Ouais, parce que tu vois genre Étretat c'est magnifique
ah,
mais
oui, c'est
j'ai
très beau, ouais.
J'ai pas de souvenirs particuliers là-bas donc
ah ouais t'as personne qui s'est suicidé là-bas que tu connais.
Non, c'est malheureusement les gens étaient trop heureux dans ma.
Bah ouais parce que les falaises pourtant dans chaque famille il y a quelqu'un qui allait les visiter.
Ouais, c'est clair. Non, ça, on a des falaises un peu plus proches, je pense. Comme d'avis, s'il y avait des suicides, c'était plus.
Ouais, parce que tu peux pas te suicider d'une dune, en fait. Tu trébuches,
non,
tu roules
ouais,
et tu tombes dans l'eau et tu te baignes. En
au
fait.
Mieux, tu t'étouffes un peu,
tu
peux te noyer.
Tu bois un peu de sable, mais tu te suicides difficilement du haut d'une dune.
Ouais. Non, bizarrement, nous, dans tous les suicides qu'il y a eu, c'était vraiment que dans des garages.
Ah ouais.
Donc tu vois, c'était pas hyper original. C'est vrai qu'en fait, c'est un truc de parisien de suicider dans un garage. Ah non, tu peux sauter d'une tour gigantesque. Nous, on n'a pas de tour.
Bah ouais. Les suicides de Paris. Je crois que les Parisiens vont être là, se suicider. Ouais, il y en a beaucoup.
Le métro.
Ou alors le métro, ouais. Est-ce qu'il y en a tant que ça?
Je sais pas. Oui, peut-être que juste on en parle quand il y en a un, mais... C'était ma hantise quand je suis arrivé à Paris. C'était, je devenais parano dès que quelqu'un s'approchait un peu trop des quais.
Ah ouais.
Ou avait un comportement suspect, qui arrive très peu à Paris. Tout le monde se comporte vraiment pas bizarrement du tout. Et je me disais, ah putain, c'est sûr, il va sauter là. C'est maintenant, je vais voir un mec mourir en sautant et tout. Je n'ai jamais arrivé. Mais...
Et tu t'as fini par te faire à la brutalité, à la méchanceté parfois un peu à Paris où les gens
non.
se prennent pas pour de la merde, non? T'es toujours encore choqué parfois?
Ça fait 4 ans que je suis à Paris et là tu vois, au moment où on tourne, on est lundi et j'ai fait un aller-retour samedi dimanche à Caen juste parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais énervé moi-même. J'ai passé une semaine chiante et j'avais aspiré l'énergie des gens plus que j'arrive. J'arrive un peu plus maintenant à faire une barrière. Mais non, quand je suis arrivé, déjà quand t'arrives et que t'as pas une thune à Paris, bah tu passes ta life à prendre le métro, tu passes ta life à marcher, tu passes ta life à... En fait, tu passes ta life à être collé à tous les gens. Et ça, putain, j'ai passé des années horribles. Et donc maintenant, je marche beaucoup plus parce que j'ai le temps. Et là, tu vois, je suis venu à pied. Je prends le vélo de plus en plus, donc j'arrive et tout. Mais non, dans les périodes où c'est très, très compliqué, où je suis un peu fatigué et tout, c'est trop... C'est trop pour moi, en fait, j'arrive pas. Mais en fait, je pense que c'est pas le problème, c'est pas les Parisiens. Le problème, c'est avoir trop de gens collés les uns aux autres.
Il y a beaucoup de monde sur peu d'espace et parfois, il y a vraiment des gens antipathiques. Gratuitement.
Mais, en fait, même en vélo, j'arrive à me prendre la tête avec des gens.
Ah, mais oui,
ce qui est quand même fou.
Vélo, bien sûr. Moi, je me prends la tête avec d'autres vélos.
Ah ouais d'accord.
Je me prends la
moi,
tête.
C'est, pas avec les ah si j'ai les autres vélos qui prennent à contresens ta voie
alors.
Ouais
ou alors
serré,
qui parfois je prends la défense des piétons quand je suis à vélo et que je vois un vélo tracé sur un piéton, okay. Je suis en mode bah non, le feu vert était pour le piéton.
Ouais bien sûr. C'est vrai que ça va, je me prends moins la tête, mais je me prends toujours la tête avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand je suis piéton, je me prends la tête avec les vélos qui respectent pas les limitations ou les feux et tout. Quand je suis à vélo, je me prends la tête avec les piétons. Et en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont pas le permis, donc qui n'ont aucune conscience eux-mêmes du code de la route. Et donc ça m'est arrivé très souvent de me prendre la tête avec des gens. Expliquant bon après le système vert rouge est quand même assez bien fait, tu vois, c'est un peu
oui,
basique.
Oui, ça devrait
mais
pouvoir
y a des
fixer
qui...
des limites qui veulent pas si non.
Il y a des gens qui comprennent pas le
puis
principe.
Il y a des gens qui sont c'est vrai qu'à Paris tu as plein de micro agressivité, genre c'est tout con mais tu vois moi pour un shooting photo, on m'a prêté une tenue et en fait je suis conne parce que c'était une très jolie tenue et que résultat le lendemain je partais en Belgique faire un plateau et je me suis dit ah bah je vais la porter là-bas, genre que j'aurais dû la garder pour le shooting. Je l'ai portée pour le plateau à Bruxelles et il s'est passé tellement de trucs là-bas, j'ai oublié mon porte-monnaie mais bref, l'autre connerie que j'ai faite c'est que j'ai mis mon bras sur le bar et il y avait plein de moutarde et je me retrouve joli haut prêté recouvert de moutarde. La moutarde c'est vraiment pas cool, c'est comme le vin rouge ou le dentifrice, c'est très chiant à faire partir. Et je l'ai amené au pressing et la fin de l'histoire est pas ouf, c'est juste que la meuf a pas réussi à faire partir la tâche, la meuf du pressing, donc c'est très chiant vis-à-vis de la marque. Je pense que je vais devoir payer ce haut très cher que je pourrais même pas porter vu qu'il est taché.
Ah oui, parce que tu t'as pas eu l'occasion de la porter en plus. Bah, sur l'occasion que
je l'ai porté au shooting, et en fait, comme je l'ai kiffé, je me suis dit, ah ben je vais le porter aussi. Mais voilà, donc c'est très. Ça me servira de leçon, mais c'est juste que la meuf du pressing, elle arrêtait pas de voir la chemise et dire, ah c'est dommage. Hein. Et elle me la rendait pas.
Ça c'est horrible.
Et t'es là-bas, je sais.
À quoi ça sert ?
Je sais, meuf, n'enfonce pas le clou.
Mais c'est ça qui rend agressif. Hein.
Ah mais ouais.
Ça veut dire oui, c'est vrai que c'est dommage que t'aies pas réussi à faire ton métier en fait,
mais
et que je t'ai payé quand même.
Grave.
Mais oui, en fait, moi je me suis rendu compte que à Paris, le problème c'est les micro-agressions qui ont un impact. C'est un effet papillon en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que t'arrives le matin, tu sors, il y a un mec, il voit son bus et donc il court et il te bouscule. Bah t'es vénère. Ouais. Donc en fait tu vas être beaucoup moins sympa avec les autres gens. Donc ces autres gens avec qui t'as pas été sympa vont être beaucoup moins sympas avec les autres gens, etc. etc. Donc t'arrives avec une fin de journée exécrable pour tout le monde, quoi.
Ouais.
Et ça évidemment c'est exacerbé par le fait qu'on est tous les uns sur les autres, quoi.
Ouais, c'est clair. Quel autre nom donne-t-on à l'artère pudendale interne ? Pudendale ?
Oh là là.
Waouh, l'artère timide, l'artère honteuse, l'artère chafouin, l'artère bavarde.
Ah, c'est trop drôle parce que je croyais que du coup, ça allait être le nom de l'artère qu'on connaît tous, tu vois, le nom commun. Alors je sais même pas ce que c'est comme artère de
base.
Moi
non plus, je sais pas ce que c'est qu'une artère pudendale.
Redis-moi les quatre.
Alors, artère timide, artère honteuse, artère chafouin, artère bavarde.
Ah, j'aime bien chafouin, mais est-ce qu'on dirait chafouin ? Pour moi, c'est bavarde parce que ça doit être le flux, non ?
Eh ben écoute, figure-toi que tu seras étonné de la réponse. C'est l'artère honteuse. C'est par elle que passe l'afflux de sang nécessaire à l'érection du pénis et du clitoris. Ça veut dire que, garçon comme fille, on a tous les deux cette artère pudendale.
Ok. Mais honteux, c'est marrant. Ils expliquent pourquoi ça.
Oui, comme on a longtemps estimé qu'il n'y avait pas de quoi être fier d'une érection.
Oh, waouh. Ok.
En tout cas, pas à notre époque.
Ah oui, c'est peut-être à l'époque plus grecque, tu sais, où il fallait avoir un petit sexe et c'était vulgaire d'avoir une érection. Ouais.
Mais
c'est pour ça que toutes les statues, et souvent les sexes sont un peu petits et il n'y a jamais une érection, tu vois.
Ouais, non,
parce
c'est
que
vrai.
C'est vulgaire, quoi.
Ah, ça putain.
Ça, je pense. Hein.
Ah ouais, je savais pas. Ah oui, parce que ça doit être un truc lié aux animaux, en fait.
C'est possible.
Un sexe en érection, ouais, c'est un âne de... ou un cheval, alors qu'un mec digne et respectable, il a un petit zizi mou, quoi.
Ah. Ouais, et puis il y a une espèce de truc de régulation, de savoir se réguler
contenir,
en tant qu'homme.
Se tenir, se tenir. Ah oui, c'est le contrôle. Oui, si tu te contrôles et que t'es détendu, t'es pas censé avoir une érection. Intéressant.
J'ai absolument pas retenu le nom scientifique de
pudendale.
L'artère.
Hein. Pudendale.
Pudendale.
C'est moche, hein.
Ouais.
Artère pudendale. Bah, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que c'est commun à nous deux et qu'apparemment il y a aussi les clitoris aussi sont en érection, quoi. Ce qui est quand même très subtil. Faut quand même apparemment ça existe. C'est un fait.
C'est plus ou moins subtil selon les personnes.
Bah, en tout cas, c'est peut-être le mec peut s'en apercevoir. Toi, tu peux pas contempler ton clitoris en érection.
Bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce que la gynophobie ? La peur de consulter une gynécologue ? La peur d'avoir des relations sexuelles ou des contacts physiques ? La peur de jouir ? La peur de faire une fellation ?
Oh waouh, c'est gêne comme gênant ?
Gynophobie.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ah mais, et pas gynophobie, donc
non,
avis, c'est un piège pour la première. Moi j'aimerais trop que ce soit la peur d'avoir des relations sexuelles.
C'est ça. Ah mais t'actives plus ton petit buzzer.
Ah oui, c'est vrai, pardon. J'avais trop peur de...
La peur d'avoir des relations sexuelles ou des contacts physiques. Il s'agit d'une peur du sexe et des relations sexuelles, d'une anxiété envers les rapports sexuels. Cela peut être plus ou moins prononcé et peut aller jusqu'à la peur du contact physique en lui-même. Pas touche, compris. Mais j'ai un pote qui est comme ça.
C'est vrai ?
Ouais, en fait, on discutait l'autre jour en loge et je racontais une anecdote à des copains humoristes. Je leur disais, j'essayais de roder une blague sur un truc un peu vrai, qui est qu'avec un gars, on se tourne autour, mais qu'on n'a toujours pas couché ensemble.
Ok.
Et
classique.
Bah, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps...
Tu t'es demandé pourquoi, en fait.
Bah, pourquoi ? Que se passe-t-il ?
S'il y avait des faux signaux, si potentiellement...
Ou est-ce qu'il a un monstre à la place du zizi ?
Ah, c'est vrai, tu t'es dit ça ?
Bah, je me suis dit... En fait, après je cherchais des blagues, tu vois. Mais en tout cas, ma mère, sa théorie, c'est il est impuissant. Moi, je suis en mode, non, maman, on se calme.
Ah oui, ok, elle est partie direct sur le...
Direct sur l'impuissance. Elle est horrible, quoi. Elle a vraiment pas de... Après, c'est marrant parce que, mais donc, quand je parlais à mes potes humoristes, et ils ont quand même dit aussi, ouais, si, impuissant. C'était, ah ouais. Ou alors, il y en a un qui a dit romantisme.
Oui.
Ou alors il y en a un qui a dit...
Parce que vous étiez déjà embrassés.
On s'est embrassés.
Ah oui, d'accord.
Je couperai absolument cette partie où je te donne tous les détails, mais c'est pour avoir ton analyse.
En plus, c'était en loge, donc il était... Ah non,
il était pas là.
C'est pas un humoriste.
Non, il était pas là. Mais en tout cas, bon, bref, on continue à se tourner autour, mais on n'a pas couché ensemble. Mais ouais. En fait, ma blague, c'était, écoute, je pense qu'il a un monstre à la place du zizi. Enfin, sinon, ça aurait eu lieu, quoi.
Mais un monstre genre. Étrange Noël de Monsieur Jack, tu
parles. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, je parle d'une gargouille.
Pas un, oui,
genre,
pas un monstre, pas un énorme sexe, quoi. Ouais.
Ah oui, non. Vraiment, non, enfin, en fait, la blague.
Un clown, quoi, tu sais, un truc.
Un masque de Halloween, okay. Tu vois.
La citrouille, vraiment.
Oui, une citrouille, ouais, t'imagines, en fait, un truc. C'est pas une question de petit ou gros, c'est
oui,
genre.
Juste un truc abominable, quoi. Un truc qui n'est pas censé être là, en fait.
Médiéval, tu vois.
Bien sûr.
C'est genre une espèce de peinture de la peste à Venise au Moyen-Âge, quoi.
Exact. Très bien, je vois très bien.
Et toi, c'est arrivé déjà d'attendre aussi longtemps avec une nana pour...
Ouais, de fou.
Ok.
Ouais, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'aime bien ce truc de romantisme, de on s'attend. Genre, on s'attend et on se retrouve et tout. Moi, je suis pas du tout désabusé de l'amour, en vrai. Je suis pas du tout, tu sais, le truc de, ouais, quand tu vieillis, tu te rends compte que finalement, c'est pas comme dans les films et tout. Bah franchement, des fois, ça se passe un peu comme dans les films. Alors oui, tout se passe pas comme dans les films, mais par exemple, il n'y a pas d'ellipse dans la vie, donc les moments chiants qui durent 4 secondes dans un film, tu te les vis vraiment dans la vraie vie. Mais non, moi, je j'aime trop ce truc-là.
Je crois que c'est quelqu'un comme ça.
Après, moi, j'adore le cul, hein, donc j'ai aucun souci,
donc ça,
que je suis pas comme ça. Mais parce que ça veut dire que c'est lui qui te l'a dit ?
Non, je pense que c'est quelqu'un de très lent. Je sais pas, il y a plein de signaux contraires, j'arrive pas, je suis un peu paumée.
Mais lui, il t'a dit qu'il avait ce truc-là de peur
de faire
du sexe ? Ah non, et donc,
pardon, tu fais bien de me remettre sur les rails de cette discussion. Et donc, quand on était en loge, on parlait de tout ça, et donc l'un de mes potes dit, bah moi, je couche pas le premier soir, parce qu'on parlait, et je disais, donc j'essayais de, je rodais un peu mes blagues avec mes potes, et je leur disais, moi, c'est pour ça que j'aime bien coucher le premier soir avec un mec.
Okay.
C'est pas parce que je suis une grosse salope, ou peut-être si aussi, mais c'est parce
et
que.
On peut adorer être une grosse salope.
Absolument.
Hein. Très honnêtement, j'ai été une grosse salope quelques soirées, ça m'est arrivé.
Et on s'amuse bien, mais c'est aussi, je pense que c'est histoire de checker, quoi, d'être en mode okay,
ouais, ok,
tu vois, avant de t'avancer, t'imagines, ouais, pendant des mois dans une histoire.
Ouais. Bah, pour toi, c'est au même stade de il est sympa, mais maintenant que j'ai checké qu'il est sympa, faut aussi savoir si on est compatible.
S'il a pas une gargouille à la place
okay,
du zizi.
Ouais.
Enfin,
c'est vrai que ça arrive très souvent.
Bah...
bien sûr, ouais.
En tout cas, à Paris, près de Notre-Dame, vers Saint-Michel.
Ah ouais. Parce qu'à un moment, tu l'as dit, ce serait cool qu'à un moment.
Ouais,
faut qu'on baise, en fait.
Bah, je lui ai dit, mais je pense que je vais tourner la page. Hein. Mais j'ai
tu
pas
penses
encore...
Parce que là, ça fait combien de temps qu'il t'a pas dit, je veux pas que ce soit une relation pansement, justement?
Ah, non, il m'a pas dit ça.
Bah, s'il écoute ce podcast, ça fait... Moi, c'est un argument.
Il y aura un bon nombre de détails, de trucs qui seront coupés en continu. Ouais. Je mettrai un air de musique s'il y a passé une musique
trop
sans
bien.
Droit.
Il va y avoir beaucoup de coupures, les gens.
Et
pourquoi?
En tout cas, ce copain disait, lui, que si jamais il couche pas le premier soir, c'est parce que
peut-être.
Lui, pour le coup... non, mais ce mec qui était dans les loges avec nous, pas là.
Ah, okay.
Et bah, c'est que lui, il a ça. Il peut pas supporter l'intimité le premier jour avec une nana. Ouais.
Ah, le premier jour. Parce que là, apparemment, c'est quand même un truc qui est genre pas
qui
que le premier
longtemps.
Jour.
Ah,
genre,
non, ouais, mon pote, il disait le premier soir, en fait, il rencontre une nana qui lui plaît, il peut pas supporter le contact physique le premier soir.
Ah, c'est drôle, moi ça m'est... Alors j'ai eu un peu tout. Genre ça m'est arrivé d'avoir des moments célibataires où en fait j'arrivais bien à décorréler l'amour du sexe et j'avais aucune pression et tout. Et c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé quand même de rencontrer des meufs qui m'intimidaient un peu et où je me disais, ah j'aimerais bien genre qu'on se voit 2-3 fois pour m'enlever la pression de la performance. Que genre si jamais je suis un peu nul,
ouais.
Et bah elles se disent quand même, on a quand même passé des bêtes de moments, donc donc genre c'est pas juste ce seul moment là, tu vois.
Ah, elle peut pas te juger là-dessus.
Ouais.
Ouais.
Et potentiellement on peut recommencer, ce sera mieux après, tu vois. Plutôt qu'elles se disent, ah on se connaît depuis 5 heures.
Oui.
Donc il y a aucun attachement, et je m'en fous. Si on a couché ensemble là, que c'est nul.
Oui.
Bah juste je reste sur ce truc là et je vais voir ailleurs, quoi.
Oui. Et
parce
en
sûrement
plus,
un truc psychologique,
ouais.
J'en sais rien. Hein.
Bah si, parce qu'en plus souvent le premier soir, le premier date, on se met une race, on picole beaucoup.
Ouais.
Et que résultat, bah derrière, pour les mecs,
ouais,
c'est pas forcément l'idéal.
Ouais.
Et donc, ils veulent pas être jugés là-dessus, quoi. Ouais, tu te rends compte. Mais c'est bien, les choses bougent. Hein. À une époque, c'était les meufs qui... qui se faisait désirer et maintenant
ouais,
c'est les gars quoi. C'est
ouais,
drôle,
puis
hein.
Je trouve ça cool aussi qu'on commence à expliquer aussi que les gars ont la pression, tu vois.
Ouais, ouais.
Parce qu'on a l'impression que les mecs ils s'en foutent royalement et tout, mais en fait, t'as un truc de performance aussi qui rend service à personne en fait.
Mais carrément, et c'est pour ça que moi j'essaie de roder ma blague avec des potes pour qu'elle soit pas oppressive et de réfléchir à comment la faire de façon bienveillante et sympathique, ouais. Tendre, tu vois, que ce soit pas juste une petite pitch levure.
Oh, enfin, le nulos,
ouais,
oh,
voilà.
Nulos.
C'était pas ça le fond de mon message quoi.
Ouais, là tu pars plus sur j'imagine qu'il a un monstre à la place
exactement,
du sexe et tu pars
un
sur la typologie
qui
de monstre.
Du
exactement.
Feu, voilà.
Exactement. Ce qui peut être désagréable. Et ça dépend
de
la température.
Ou trop
marrant, bien sûr,
ouais,
bien sûr.
Exactement. En hiver, eh ben, c'est bien pratique.
C'est clair. Putain, c'est clair.
Question suivante. Parce que j'étais vraiment
pardon,
en train
de...
Ouais,
j'ai
aussi,
fait... oui,
tu visualisais du...
ouais, le problème, c'est que là, on n'est pas bon en podcast sur des trucs comme ça. Parce qu'en en fait, on serait bon à l'apéro. Parce que ça nous fait partir sur des trucs et on réfléchit.
Bah là,
et du coup, il
faut...
y a des silences incroyables.
Il faut faire des appels au talent d'un illustrateur. Quoi.
C'est ça.
Parce que moi, je me suis vraiment dit, c'est quoi, genre une bite briquée, quoi, qui peut à
oh,
la fois,
wow.
Tu vois...
Mais c'est toi qui l'allumes.
Ouais, tu l'allumes ou juste une bite bien serviable, quoi, quand tu fais... Mais qui
ah,
fait
oui,
un
vraiment,
peu froid. Ouais, ou une bite, tu sais, quand tu
peux t'axer dans la rue, quoi. Parce que non, t'as pas une bite briquée? Ouais, pas de souce. Non, j'ai arrêté.
Ou dans la rue, je pense que comme dans la rue, je pense que ça serait compliqué de sortir ta bite briquée dans la rue avec des inconnus. Par contre, l'hiver en Normandie, tu vois, près de Ouistreham,
oui.
Quand il fait vraiment.
Je vois très bien.
Et que tu dois allumer le feu, et
ouais.
Tu vois, et que t'as les bûches, mais que le feu ne prend pas.
Bah, trop pratique.
Tu sors ta bite.
Et genre, ça marche comme si tu pissais?
Bah, exactement, faut pas se tromper, parce que tu peux.
Ah oui, tu as le deux valves, bah oui, sinon tu l'éteins.
En fait, t'as deux modes.
Oh, ce serait incroyable.
T'as le mode pipi et le mode feu, quoi.
Ah ouais, bah, il y a trois modes parce qu'il y a vraiment
le mode, et
le mode
de spermatozoïde.
Ouais,
ouais.
Voilà. On dirait qu'il est 4h du matin, mais pas du tout. En même temps, ce jeu vraiment,
ce jeu,
un jeu de sexualité, donc
bah,
partons
oui,
là-dessus.
Bah, ouais. Et en même temps, ouais, bah, oui.
C'est incroyable,
très drôle.
Les différents modes sur le sexe, c'est incroyable.
Est-ce qu'il y en a un quatrième classe?
Ah oui, ah bah oui, bah ça devient un fruit, oui. Le mode glaçon,
ah,
est incroyable.
Glaçon l'été.
C'est très compliqué à sortir. Je pense que ça te fait un peu mal quand même. Le mode glaçon, il n'est pas hyper agréable pour personne.
Ouais, le mode glaçon, ou alors vraiment pour faire, tu sais, des frappés, quoi. C'est des
smoothies. Ah oui, des granités, vraiment granités.
Ouais, voilà.
Je pense que le mode glaçon, il est plus pratique à sortir avec une vulve.
Ah oui, c'est vrai.
Donc il peut y
c'est
avoir des trucs complémentaires.
C'est vrai qu'on peut être complémentaire là-dessus. T'as raison. La vulve.
Vous sortez un bébé. Donc,
on sort un bébé.
Glaçons,
ah bah je vais te dire, on peut sortir.
Bien sûr.
Ouais. Trois glaçons, c'est pas sec. oui, ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qui pourrait sortir d'autre de la vulve si lui il sort le feu? Je sais pas pourquoi j'ai imaginé une longue écharpe.
Ah oui, qui va avec. Ah oui, vraiment, t'es un mood hiver, quoi.
On rentre dans l'hiver ce matin. T'as vu le noir qu'il faisait ce matin à 7h? Je me suis réveillée à 7h et c'était la nuit et je me suis dit, c'est l'hiver.
C'était une vraie question que tu m'as posée à
7h. Il est 18h et j'imagine des écharpes qui sortent de vagin.
Putain, mais on dirait un mauvais tour de magie.
Ah oui.
Ça ne s'arrête jamais. Oh là là.
Oh, putain, là, on est pas sur un court-métrage, enfin, ouais, un film d'horreur pour enfants, tu sais.
Oh.
Genre, elle arrive.
Ah, pour enfants? Pourquoi pour enfants?
Bah non, donc en effet, pour adultes, mais genre, regarde, ah putain, voilà, t'as réalisé un film porno, tu as réalisé un film d'horreur. C'est une nana qui vient faire animer un goûter d'anniversaire. À des enfants et elle leur fait un spectacle. D'un coup, les enfants partent en hurlant et c'est ça le film. À votre avis, quel est le tour qu'elle a fait?
Et après, la suite, c'est un film d'horreur porno.
Ah.
On voit vraiment ce qu'elle a fait. Est-ce que ça existe des films d'horreur porno? Ça doit exister, mais j'en ai jamais vu.
T'es très vite revenu au porno quand même. Hein.
Oui, bah, je me suis dit, écoute, c'est la thématique. Il y a plein de petits culs autour. Parce qu'on voit pas, les gens n'ont pas l'image, mais il y a plein de petites fesses autour de moi. Et en dessin.
Le film d'horreur qui dit à porno, ouais, c'est drôle.
Ça doit exister.
Ah bah, c'est sûr.
Moi, j'ai envie de mater.
La plupart des films d'horreur, pour moi, des films porno sont
des films
d'horreur.
C'est vrai.
Ah bah, franchement,
c'est
effrayant. Il y en a ça, c'est effrayant.
Ouais, ouais.
Mais des comédies aussi, certains de bonnes franches comédies.
Il y a des trucs drôles.
Il y a des trucs drôles.
Mais ouais, j'ai beaucoup de mal à regarder du porno. Je suis parti en truc deep, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, c'est mon introduction,
ouais.
Je crois, dans la vidéo où je parle du porno. Où je dis, voilà, il y a un problème, c'est que j'arrive plus à regarder du porno. Et soit, au contraire, tout soit justement, c'est trop hardcore.
Ouais.
Et je suis en mode, waouh, je suis pas sûr que le consentement soit au centre de ce truc-là. Ou alors, même si c'est joué, bah, du coup, ça m'excite pas de fou. Ou alors je trouve ça trop mal filmé, ou alors j'arrive plus à y croire.
Le jeu d'acteur, en fait, mauvais jeu d'acteur. Et ou alors il faudrait faire une formation, une vraie formation pour acteur.
C'est vrai.
Et là, autre concept.
C'est fou.
Attends, mais ça serait incroyable. Alors, c'est une fiction, mais ça se passe dans un cours de théâtre qui ouvre pour les acteurs porno. Et vraiment, ils font une comédie musicale et ils se forment et ils travaillent la technique.
Tu sais que ça me fait penser à un truc. Mon ex, sa mère est comédienne de doublage. et en fait, elle faisait les doublages de Clara Morgan.
Ah ouais ?
Au début, dans ses premiers films, parce que Clara Morgan, je sais même pas si j'ai le droit de le raconter en vrai, bon. Parce que Clara Morgan n'arrivait pas à se doubler elle-même.
Okay.
Donc tu te dis, t'es à quel niveau de jeu pour ne pas arriver à rejouer ton... Ou alors, c'est peut-être qu'elle jouait pas. Elle avait des vrais orgasmes et tout, et après elle disait, bah ouais, mais je peux pas rejouer l'orgasme.
Bah c'était pas mal ça, en fait, le début de la carrière de Clara Morgan en tant qu'actrice porno, et je la connais un peu. En fait, au début, ses premiers films, c'était avec son partenaire, en fait.
Ah, donc c'était des vrais orgasmes, je pense.
C'est possible.
Donc en fait c'est fou de se dire, quand tu regardes les premiers films de Clara Morgan, c'est pas...
Donc ça veut dire que la mère de ton ex savait incroyablement bien jouer.
Écoute, j'ai jamais vraiment pensé à ça à
elle
ce moment-là.
Elle a jamais fait une démo à table.
Non, elle a... Ah, je suis en train de me demander si elle a pas déjà fait. Mais écoute, j'ai fait un blackout, je crois, de cette histoire. J'ai fait un blackout de ce dîner, ok. je veux pas...
Tu m'étonnes. Et t'imagines, t'es avec sa fille, là, tu joues et joues exactement comme ta mère.
C'est très étrange, hein, telle mère, telle fille ou quoi, en fait.
La même octave. Oh, waouh. Bon, elle a l'air très marrante, en tout cas.
Ah, adorable. Ouais. Je l'embrasse, hein, si elle écoute ce podcast, évidemment.
Ça fait déjà une heure, donc
Mais non, c'est vrai.
Mais si, je te jure.
C'est fou.
Bon, alors attends. Ah, c'est vrai. Bon, bah,
je sais pas si t'as une durée maximum.
Si, mais... il faut qu'on parte à 17h30. Et il est...
Ah, bah, il est 28. Il est 18, pardon.
Ah, 18. Ok, on a encore 10 minutes. Ah, ouais, ok, cool. Fou. Que peut-il arriver à la furette, femelle furet?
J'adore les furets.
Si elle ne s'accouple pas pendant un an.
Oh, si elle meurt, c'est horrible. Il y a des propositions?
Ouais. Elle peut devenir stérile, elle peut mourir, elle peut tomber malade et elle peut devenir agressive.
Elle peut devenir hystérique. Ah ouais, ok. J'ai envie de dire mourir, j'ai envie d'aller dans l'extrême. Tu sais, elle meurt de... je sais même pas de quoi, mais tu sais, elle meurt... elle est en mode, putain, le sexe, c'est la vie, elle crève.
Et c'est vrai qu'il faut une bite d'oliprane aussi. T'imagines?
Ce serait fou.
Feu,
ah oui.
Sperme... O plus petit cachet de Dolly.
Mais il paraît que
ibuprofène comme ça.
Il paraît que quand les Dolly rhume, t'as les Dolly cul. Mais il paraît que l'orgasme, ça t'aide pour le mal de tête.
Ouais, ah bah carrément. Ça pour les migraines. Et bah figure-toi qu'elle peut mourir.
Bah ouais.
Bah ouais. Lorsque la.
Se jouer pour chien.
Lorsque la furette est en chaleur, c'est l'accouplement qui va provoquer l'ovulation. Si elle ne s'accouple pas. Elle reste alors en chaleur et accumule trop d'œstrogène. Le taux d'hormones devient alors toxique et la rend vulnérable face aux infections qui peuvent entraîner sa mort.
T'imagines, c'était pareil pour l'être humain. On est déjà tellement sur Terre, on serait trois fois plus, quoi.
Mais moi, je préférerais que ce soit comme ça. En mode, tu vois...
Je voudrais qu'on soit 28 milliards sur Terre.
Non, mais qu'en fait, quand t'es trop en chien, tu baisses pas, et tu finis par clamser, et c'est comme ça...
Ça te met une pression de...
Ouais, comme ça, ça s'arrête. Non,
ça te met une pression à toi ou ça met une pression aux autres? Comme, par exemple, un mec qui veut pas coucher avec toi depuis des mois, alors que vous tournez autour depuis très longtemps.
Ouais, non, ça serait une très mauvaise idée, je pense que... Non, mais... Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça parce qu'en mode... Et quand ça fait trop longtemps que t'as pas ken et qu'au lieu de plonger en dépression, tu meurs, ça s'arrête. Quoi.
Oui, au moins c'est réglé. On en
tu vois, c'est réglé, il n'y a pas besoin d'aller aux falaises d'Étretat. Et tant de running blagues, pardon, j'en fais pas autant habituellement, mais je sais pas pourquoi.
En plus, je pense que ça crée vraiment des problèmes parce qu'en plus là, c'est que la femelle.
Ouais.
Donc ça crée des problèmes de meufs qui agressent des mecs dans la rue en mode mais baisse-moi, tu vois, des trucs comme
ça.
Des mecs qui seraient violés
drôle.
Dans la rue seraient. Tu sais, genre, question de vie ou de mort, quoi. Après, ça aurait créé un business. Il y aurait beaucoup plus d'escortes mecs.
Ouais, ouais.
Et ce serait des médecins en plus.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que clairement, la femelle du furet a une. La furette a une libido du feu de Dieu, quoi. C'est ça qui est.
Mais je serais curieux de savoir du coup ce que ça crée, ce que ça impacte dans
les
des...
relations ouais. furet-furette.
Est-ce que c'est des relations de couple? Est-ce qu'il n'y a pas d'histoire de couple?
Ouais.
Est-ce que justement les furettes violent les mecs?
Les furets?
Ouais.
Ou est-ce que les furets. Ça serait... Tu veux dire, est-ce que les furets ont une libido aussi grande que les furettes?
Bah ouais,
apparemment
que les furets,
pas. Hein.
Pas trop, hein.
Ouais,
ou alors est-ce qu'ils sont obligés justement d'avoir une maxi libido pour pouvoir faire en sorte que les furettes meurent pas?
Bonne question, Ben, mais est-ce que c'est pas la même question pour les chats? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les chats sont en chaleur,
Ah, elles ont plus envie que les
chats. Il me semble qu'en tout cas, leurs miaulements sont quand même plus vénères, non ? Je sais pas pourquoi j'ai l'image d'une chatte en chaleur comme dans Truc, tu vois ?
Alors je pense que l'agressivité, c'est toutes les espèces.
Ouais.
Il doit y avoir un truc de. T'es pas bien, tu sais. Mais je pense qu'il y a un truc scientifique, hein, je l'ai pas là, mais je pense que tu sécrètes un truc de sûrement de dopamine ou un truc comme ça qui te fait du bien.
Ouais, mais la testostérone, c'est plutôt ça l'agressivité. Ce que là, je trouvais, tu vois. Normalement, l'agressivité, ça vient plutôt de la testostérone.
Ouais, c'est vrai.
Et là, d'ailleurs, c'est pas de l'agressivité, elle bute personne. C'est l'œstrogène qui fait qu'elle va mourir.
Oui, c'est vrai
ouais.
Oui, et oui, en effet, ça
ne rend pas agressif. Typiquement féminin, quoi.
Ouais.
Quand t'es au plus mal, et bah, tu te laisses crever plutôt que d'aller taper quelqu'un, quoi.
Putain,
c'est pour
fou,
ça qu'on est supérieur à vous.
C'est vrai.
Et c'était un traquenard, merci.
Ah non, le piège se referme. Elle a tellement raison. Non, j'ai envie de tout savoir sur les furets maintenant, sur la vie sexuelle des furets.
Moi aussi, complètement. Mais la vie sexuelle des animaux, c'est vrai que c'est fascinant.
C'est incroyable.
Et rien que le fait de les parades amoureuses et le fait que les mecs aient besoin d'avoir autant de couleurs. Tu sais, tous les animaux,
sur les pans,
les oiseaux chanteurs, les oiseaux qui sachent le chant, tout le processus de sélection, je le trouve hyper cool, quoi.
Ouais. Et puis voir les parades de drague, de voir qu'en fait, c'est pas que nous qui avons plein de trucs de « ah, on flirte, nanana » et tout. Les oiseaux, en effet, qui ont des stratégies, mais incroyables.
Incroyable.
Il y a un protocole, il y a un truc, c'est fou. Hein.
De roux. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est... Alors que c'est nous qui nous mettons plein de couleurs aujourd'hui, mais parce qu'il faut que la leçon de tout ça, c'est les mecs, en fait, faites-vous plaisir avec des vêtements de couleur.
De fou.
Tu vois.
C'est vrai. Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que...
Est-ce que ça attirerait plus...
Parce que ça marche que dans un sens ?
Bah en tout cas chez plein d'animaux c'est les mecs qui font la parade. C'est les mecs qui font la parade et qui ont toutes les couleurs. Bah regarde d'ailleurs tu distingues souvent les canards par exemple. Tu vois les canards, elles ont beaucoup moins de couleurs parce qu'elles ont moins besoin. Quand tu vois un beau canard avec tu vois si t'es sûr de voir des reflets violets et bleus, tu peux être sûr que c'est un mâle. Si tu vois une femelle un peu grise, c'est tu sais que c'est une femelle.
Mais alors du coup, est-ce que c'est les mecs porter plus de couleurs ou est-ce que c'est venez, on dit qu'on est l'espèce où la meuf a le droit de faire le premier pas aussi.
Nous, les humains ?
Ouais. Parce que, en fait, c'est que dans un sens, tu vois. C'est que les mâles
qui
draguent.
Les meufs
qui
se font courtiser.
Est-ce qu'on peut pas se dire, au lieu. Donc, oui, porter des couleurs, parce que ça fait plaisir, tu vois. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi, venez, on n'est pas obligé.
C'était un partenariat pour Bumble, cette fois-ci, de l'application.
Les femmes font le premier pas sur cette application. J'ai fait un partenariat à Bumble.
Ouais, moi aussi, c'est très cool.
Évidemment.
Ouais. Est-ce que j'ai l'air de faire le premier pas ?
Avec moi ?
Je veux dire, dans manière générale, dans la vie, tu penses que je suis une meuf qui fait le premier pas ?
Ah, c'est très intéressant ça. Parce que t'es quelqu'un de très intense. Je trouve que t'as un regard hyper intense et t'es...
et tu me fais peur.
Il va falloir arrêter de me regarder comme ça parce que je suis très gêné. Non, mais t'as un truc où je pense qu'en effet, tu peux être du style « Bon, casse les couilles maintenant, c'est bon. Hein, je vais pas... » Voilà. Et en même temps, je pense que t'as un truc d'hypersensibilité qui fait que t'as très peur du rejet aussi et qu'il y a une petite voix... En fait, tu dois avoir un double truc de « Ce mec me plaît, il faut absolument que j'y aille. » Et en même temps... de te dire putain mais j'ai peur qu'il me rejette.
Mais c'est exactement ça.
Bah je suis psychologue. Donc, si vous me croisez dans la rue, abordez-moi avec vos problèmes et je les réglerai.
Ça coûte combien ?
Ah, je le fais gratuit déjà.
Wow. Bah ouais, si, c'est vrai, il y a un peu de ça. En fait, je pense que je suis exactement dans cet entre-deux où je vais faire le premier pas parce que j'ai envie que les choses se fassent, mais je vais le faire avec plein de sous-entendus.
Ah, ok. Ce que l'autre ne voit pas, et après tu lui dis, mais si, regarde tous les signes et
mais
tout,
regarde,
je sais plus.
En vrai, c'est à la base de la création de ce podcast, hein. Les mecs que je veux ken, c'était pour ça, c'était bah je l'inviterai dans mon podcast.
Donc genre les 10 premiers que t'as invités, c'était des mecs que tu voulais vraiment ken ?
Bah en tout cas que je trouvais désirable. Après, certains je savais c'était des potes ou je savais qu'ils étaient maqués. Mais par contre, je trouvais que oui, ils correspondaient, tu vois, à l'idée d'un mec beau et drôle. Et que c'était ça le truc que je voulais questionner, c'est les mecs que t'admires. Et c'est une technique quoi, viens dans mon podcast. En vrai que j'ai plus... est-ce que j'ai pu utiliser cette technique ? Absolument.
Je te demandais, est-ce que ça a marché ? Les gens vont refaire tous les épisodes en mode « Qui a la ken ?» Ok, ça a marché. Okay. Et après, finalement, ça s'est épuisé. Donc, t'as invité plein de meufs.
Ouais, exactement.
Et après, tu m'invites moi. Donc, tu vois, il n'y a plus de...
Et entre-temps, j'ai invité mon père, ma mère, ma soeur.
C'est pire.
Un membre de ma famille. Non, mais en fait, il vaut mieux dire la vérité. N'inventez pas des concepts d'émissions pour ken des gens. Dites-leur...
Oui, ça va trop loin.
Ça va trop loin.
Ouais, bien sûr. Mais inventez des émissions parce que c'est stylé.
Voilà. Et en fait, finalement, quel que soit le motif...
De fou.
Il faut créer. Alors, avant de passer au questionnaire de Proust, est-ce qu'on fait une dernière question position du cul ou...
Est-ce qu'on est mi-dehors à 30 ou...
Non, on a encore...
Bon, allez, on s'en fait une dernière.
Allez, on s'en fait une dernière, ok.
J'espère que je renifle pas trop depuis le début, parce que depuis ce matin, je fais une allergie à un truc. Je crois à Paris.
Ouais, je comprends.
C'est ça, en fait.
Et toi, tu fais le premier pas, Ben ?
Ouais, moi, je fais le premier pas, de fou. Moi, j'adore draguer et j'adore me faire draguer.
Trop
bien. Je pense que je suis pas forcément un bon dragueur. Je sais pas ce que ça veut dire, en vrai, un bon dragueur. J'ai pas de disquette et tout, tu vois.
Ah bah, c'est l'enfer, ça.
Ouais, j'ai pas de disquette et j'ai pas de technique de manipulation.
Tant mieux.
Et en fait, c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont trop à l'aise. Ils trouvent toujours la phrase, le truc. Et pour moi, c'est un peu de la manipulation, tu sais.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment un truc de... tu vas savoir exactement qui je suis, donc même si on sort ensemble derrière... Il n'y aura pas un truc de la phase de drague.
Ouais.
J'aurais été plus stylé que ce que je suis après, tu vois.
Bien sûr, mais ça, c'est ça pour moi, la séduction. C'est être le plus soi possible et ne pas trafiquer, truquer, faire semblant que... et le plus tu te plais dès le départ sur un, bah, ouais, des vraies qualités réelles, bah, ouais, c'est ça la séduction, je crois.
C'est vrai. Mais est-ce que ça paye à chaque fois ?
Non. Enfin, si. En tout cas, moi, ce qui a plus payé, c'était quand j'étais genre vraiment nature peinture avec des mecs qui m'intéressaient pas trop okay. et que je calculais pas mon comportement et que je lâchais des blagues de prout et ouais. qu'en fait, ils étaient à cette meuf est cool.
Mais du coup, ça marchait pas avec les mecs qui t'intéressaient vraiment.
Et les mecs qui pouvaient m'intéresser où j'étais en mode et si je fais croire qu'en fait, je suis mystérieuse parce que nanana. Et oui, non, ça marche ouais. pas. Ouais, bien sûr que non.
Mais je crois que je prends plus de plaisir, moi, à me faire draguer qu'à draguer.
Trop bien.
En vrai.
Trop bien.
Peut-être par flemme. non, en vrai, je sais pas. Je crois que je. Ou par ego, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question.
Bah, c'est cool.
Je crois que ça m'enlève une pression aussi.
Mais ouais, mais c'est trop bien. C'est que t'es bien déconstruit. C'est cool.
Ah oui, ça me dérange pas du tout.
Parce qu'il y a vraiment des gars qui supportent pas ça, oui, mais par machisme, quoi. Qui sont là en mode ah ouais, non, si la meuf prend les devants, elle me destitue de mon rôle de mâle.
Ça me casse.
Plein. Ouais, voilà.
Bien sûr.
Hey.
C'est vrai. Ou qui se vexent quand la meuf veut payer l'addition.
Ouais.
Alors que j'adore, moi. Non, en vrai, moi, j'avoue que j'ai du mal à ce qu'une meuf me paye l'addition, mais en fait j'ai du mal à ne pas moi payer maintenant que j'ai un peu d'oseille, parce que je le fais avec mes potes aussi et tout.
Ouais.
Et maintenant presque ça me vexe quand on me paye un verre. Je suis en mode vas-y c'est bon je pouvais me le permettre ou je sais pas.
Bah après ça peut s'équilibrer sur plusieurs dates et dans une relation, mais j'avoue que le premier date et c'est peut-être l'endroit où je suis le plus polémique. Voilà c'est le fait que j'aime bien qu'on m'invite au premier date.
Oh, c'était l'instant Dieudonné là.
C'était pas sorti et je sais que je perds des gens à chaque fois
Twitter,
que je dis ça.
Les gens vont sortir
de son contexte. Voilà. Une carrière qui se termine.
Ouais, non mais en vrai je comprends parce que je trouve que ça peut aussi envoyer un message de tu sens que le mec il est enfin tu vois il est prêt aussi à faire ce truc là tu vois.
Ouais exactement et puis tu te dis putain le gars il enchaîne pas les dates enfin, en fait le mec il fait tu
ou
vois
alors il est très riche
ou alors il est très riche ouais
c'est possible. Non mais je vois ce que tu veux dire. Après c'est horrible parce que potentiellement ça peut te mettre la pression. Moi je sais que j'ai eu la pression pendant longtemps quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas de thunes.
Ouais.
Et moi pas forcément dans les dates hein, mais ça mettait la pression des fois de pas reprendre un verre ou tu sais de pas pouvoir me payer un verre ou un truc comme ça tu vois. Et ça du coup moi dès que je le sens chez quelqu'un, je paye direct le verre. Donc j'ai pas trop d'égo là-dessus. En fait j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un truc au-delà même de la séduction. Pour moi c'est pas un argument de séduction, mais je trouve que c'est un argument humain, tu sais, de se dire vas-y toi ce sera la prochaine, c'est pas très grave, et puis je te paye le verre. Enfin, tu sais quand on parle pas d'un dîner à 1300 balles, plutôt cool quoi.
Dernière question du questionnaire. Que fait le saumon rouge pendant la saison des amours ? Il prépare des prestations pour impressionner les femelles. Il revient sur son lieu de naissance. Il saute hors de l'eau pour attirer l'attention. Il visite plusieurs rivières pour trouver des partenaires.
J'aimerais bien que ce soit qu'il revienne sur son lieu de naissance, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux qui font ça. Il y a notamment, tu sais, l'hirondelle. L'hirondelle, il y a un truc très beau, c'est l'hirondelle, elle reste en couple avec la même personne tout le long de sa vie. Et tu sais, l'hirondelle, je suis de la campagne, mais voilà, ça a des nids d'hirondelles en fait qui se créent, j'en ai dans nos garages et tout, et en fait, elles reviennent aux mêmes saisons de l'année tout le temps. Et donc après, bon bah là, on est en train de baiser la planète, donc les flux migratoires sont un peu déréglés. Donc elles meurent, les
non, ça c'est faux.
Oui, pardon, je pensais pas du tout à côté
ah,
à cause de
ça.
On
t'a pas dit. Non, mais finalement, c'est pas vrai. Non,
mais
non.
Je crois que c'est plutôt à cause de végétariens, je crois.
Oui, voilà,
ouais, c'est tous les islamo-gauchistes et tout, c'est à cause de.
Voilà, c'est à cause de.
Voilà, je les confonds à chaque fois, mais t'as raison. Et donc j'aimerais bien que les saumons ils fassent la même chose, qu'ils aient un truc de ils reviennent, ils kennent et après ils repartent tous ensemble.
Eh ben écoute, Ben, c'est exactement ça.
Putain. La nature est tellement prévisible.
C'est beau. Il revient sur son lieu de naissance. On estime que le saumon rouge peut parcourir plus de 6000 km
oh, wow.
pour revenir dans sa rivière d'origine quand il fait faim.
Mais ça veut dire que... Attends, ça c'est pour Ken. Ils reviennent à leur lieu d'origine
ouais,
pour Ken.
Ouais, exactement.
Donc ça veut dire qu'ils retrouvent leurs amis d'enfance, quoi.
Ouais, exactement.
Voir leur famille.
Voir leur famille.
Un peu gênant.
Ouais. Ouais, ça peut créer peut-être...
Après, je suis normand, donc ça me choque pas de fou.
Oui, voilà,
mais...
si vous êtes bon, habitué à l'inceste,
évidemment, évidemment.
Il y a un truc je retourne de consanguinité.
Très... Oui, je vois ma mère très souvent à Ouistreham, voilà. Bon, c'est... J'adore la famille. Bon.
Elle te sort quelques glaçons.
Bien bah sûr, évidemment, on est dans le futur. Non, mais j'aime bien ce truc-là.
C'est beau, ouais. C'est beau parce qu'il y a un truc de répétition ancestrale qu'en fait, on a beau aller parcourir toutes les rivières du ouais. monde, est-ce qu'on reviendra pas dans notre rivière de base, d'origine ?
Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est
rentrer à la maison.
Mais ouais, c'est beau. Après, ça marche que si leur endroit de naissance n'a pas été détruit par l'humain.
À cause des végétariens.
Exactement. Ça, c'est stylé. En vrai, la nature est stylée. Et ce jeu est stylé, d'ailleurs. Je
il
sais pas si t'es
bien.
Payé pour avoir ça.
Mais
maintenant, c'est une amie.
C'est une copine.
Donc faisons le... Oui, mais moi, je fais payer les amis. Hein, donc il y a son
Bah, toi, je vais lui faire ça. Mais elle était trop contente. Mais par contre, je lui dirais de te l'envoyer.
Oh, avec plaisir.
Elle sera,
avec grand
elle sera
plaisir.
Très, très, très heureuse. Alors maintenant, c'est autour du questionnaire de Proust qui, lui, par contre, les ayants droit de Proust, me reverse un petit...
Normal, évidemment. Donc ça, il faut que je réponde rapidement ou pas?
Pas forcément.
Ok, d'accord.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Attends, faut que je me mette dans un mindset. La qualité que je préfère chez un homme...
Désolé, c'est genré parce que c'est Proust, quoi.
Ouais, bien sûr, mais j'adore, j'aime encore plus. Sa loyauté.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Son honnêteté.
Le principal trait de ton caractère?
Oh là là, ça c'est dur. Je dirais... Est-ce que c'est l'honnêteté parce qu'il me plaît plus chez une femme? C'est le principal... pardon, c'est la principale qualité?
Le principal trait de ton caractère?
Ah oui, principal trait. Bah, c'est pas du tout la... Pas du tout la concentration déjà, ça c'est sûr. non, je dirais la sensibilité en vrai.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Ah oui, je l'ai déjà dit chez un homme, parce que c'est l'honnêteté. Non, c'était la loyauté, ce qui va avec l'honnêteté. Et pour moi, la loyauté, c'est tellement un truc... c'est moi, je suis très... pardon, il ne faut peut-être pas divaguer dans cette rubrique-là, mais pour moi, je suis très loyal avec mes amis.
Mm-hmm.
Et je suis très rancunier.
Mm-hmm.
Et c'est-à-dire que pour moi... tu vois, là, je suis allé en Normandie ce week-end parce que j'en avais marre de Paris, mais surtout parce que j'ai un pote qui s'est fait larguer. Donc j'ai pris le train direct et j'ai passé l'après-midi avec lui, tu vois. Et ça, j'ai un mini truc où je le fais parce que je sais aussi, enfin, je le fais parce que évidemment ça me fait plaisir et que c'est important, mais je le fais aussi parce que je sais que cet ami-là le ferait pour moi, tu vois.
Ouais.
Et je crois que je suis très dur avec mes amis comme je suis dur avec moi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est l'expression « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». En fait, il faut être aussi attentionné. Absolument. En amitié, quoi. Ouais.
Ah ouais, de fou.
Bah
de
oui.
Fou. Mais pour moi, l'amour et l'amitié, c'est... Enfin, l'amitié est une forme d'amour. Et pour moi, en effet, c'est d'autant pas acquis. Cette phrase va être très peu français. Mais c'est... pour moi, l'amour n'est pas acquis. Et c'est drôle parce que ça, je trouve qu'on... On en a bien conscience que, tu sais, en relation, il faut toujours se séduire, on dit souvent se refaire des petites attentions et tout. Et l'amitié, on a un espèce de truc plus de... On est amis pour la vie, c'est bon, tu vois, c'est acquis. Alors que non, en fait, ça s'entretient, l'amitié.
De ouf. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis, justement, donc leur loyauté.
Alors, loyauté, est-ce que, du coup, ce que j'apprécie vraiment... Je crois que c'est le non-jugement.
Ouais, l'ouverture d'esprit.
On se juge très peu les uns les autres. Et ce qui fait qu'on peut se raconter tout.
Même celui qui a plusieurs mamelons, vous le jugez pas?
Bah, on le lèche tous, parce que c'est que des onérogènes et c'est un vrai kiff. Et ça aussi, c'est entre potes, se faire plaisir, c'est important.
Ça, c'est un épisode d'entre potes qu'on a,
bien sûr,
qu'on
bien
a pas vu.
Exactement, mais il sera dispo sur YouPorn.
Ton principal défaut?
Oh, bah, alors, je suis rancunier, mais je vais essayer d'en trouver un autre. Mon principal défaut, bah, tu vois, c'était ma sensibilité, ce qui me définit le plus, et je crois que c'est aussi mon principal défaut, c'est que par moments, je gère très mal mes émotions. Donc, je pense que la colère, par exemple, tu vois, fait partie des choses que j'aimerais mieux gérer, et qui fait partie de mes défauts, parce que ça fait de moi quelqu'un que je n'aime pas.
Moi aussi.
Allez, viens, on s'énerve là. Putain, allez, on va dans une fury room ensemble à tout péter.
Ouais. Moi, faut que j'arrête de bloquer des gens quand je suis vénère parce que j'ai
et
j'ai
moi, tu les rebloques une heure après.
Oui, non, je suis là, les gens sont là, débloque moi, je suis mode pardon.
Ouais, puis tu dis des trucs des fois que tu regrettes.
Ouais. Ton occupation préférée?
Le skate au bord de la mer. Je crois que c'est un des trucs qui me détend le plus.
Mais comment c'est possible le skateboard de la mer? Faut que le sable soit super dur.
Non, non, c'est. c'est je suis Jésus en fait, je t'explique.
Tu flottes sur
le skate. Non, c'est sur les digues. Ah. Tu sais, en fait, t'as des énormes pistes cyclables.
Ah, bah, si tu précises pas, comment veux-tu qu'on le sache?
Désolé, pardon, excusez-moi, les Parisiens. Voilà, sur la plage, voilà, t'as la mer, la plage, et après, souvent, t'as des énormes pistes cyclables et piétonnes. Et donc, je fais là-dessus. Donc, les plages du débarquement, on a l'avantage d'avoir des grandes lignes droites où je peux faire des kilomètres et des kilomètres en skate, en longboard plus précisément, qui est plus adapté pour faire de la distance. Et donc, ça, c'est un truc, je mets des écouteurs, j'écoute de la musique et ça me fait trop du bien.
Ton idée du bonheur?
Est-ce que je vais dire une phrase très intelligente? Non, je vais pas dire une phrase intelligente. Je pense que mon idée du bonheur, c'est un. Si on doit donner une vraie image, je pense que c'est une maison au bord de la mer, avec un jardin et un potager. J'avais un potager quand j'étais à Caen et j'ai plus la place depuis que je suis à Paris et ça me manque. Ça pourrait faire très bobo parisien, mais vu que je viens pas de Paris, j'ai un joker et non, je suis vraiment campagnard. Okay,
non, mais je te suis, moi aussi, une maison au bord de la mer, c'est aussi mon idée du bonheur. Ouais.
Après, je t'avoue que plus le temps passe, moins j'ai envie d'être au bord de la mer parce que les durées de vie des maisons, on commence à se rendre compte que ça va être dead, tu vois.
Bord, c'est un peu flippant, quoi.
Les gens qui ont acheté ça une fortune et qui se rendent compte que ce sera invendable dans quelques années, voilà. Mais quand je dis mer, c'est même parce que non, vraiment, j'aime trop la mer, mais j'aime la vue de la mer. Ouais. C'est le truc qui me repose le plus. Et sinon, ça peut être campagne plus Normandie,
avec
plus
une
profonde.
Rivière et des saumons
rouges.
Ouais,
de fou.
Quel serait ton plus grand malheur?
Je sais pas si c'est objectivement mon plus grand malheur, mais ma plus grande peur, en tout cas, ce serait d'être abandonné par les gens que j'aime. Pour moi, ce serait le plus grand malheur.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Ce que je déteste par-dessus tout, il y a un paquet d'aliments déjà que je déteste. Putain, je crois que ce que je déteste par-dessus tout, et c'est là que je vais passer à droite, c'est la fainéantise.
Ouais, mec, mais je suis d'accord avec toi.
Je crois que je suis très peu, patient avec la fainéantise.
Oui, mais en fait, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit une valeur de droite. On peut être de gauche et ne pas supporter. Non, mais c'est chiant parce que c'est vrai que je suis comme toi. Moi aussi, je comprends pas la fainéantise. Mais c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qui doit travailler la nuit et répondre le week-end qu'on est de droite.
Par rapport, là, je dis ça à mon équipe à chaque fois. À quoi vous prenez des week-ends, c'est
comment
bon.
Ça
oh, les feignants.
80 heures par semaine, c'est trop.
Non, mais c'est vrai que moi, je suis un énorme bosseur. Ouais. Et c'est con, hein, parce que. Plus je grandis, plus je suis plus patient avec le fait qu'on n'a pas tous la même conception de la vie et qu'il y a plein de gens qui adorent être fainéants, tu vois. Mais dans ma vie à moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Je juge un peu trop.
Ouais, je suis comme toi. Et enfin, comment aimerais-tu mourir?
J'aimerais mourir dans mon sommeil sans m'en rendre compte. C'est vraiment... je crois que... De toutes les morts, en fait, alors moi je suis très angoissé par la mort.
Okay.
Plus j'avance dans ma vie, plus je calcule le pourcentage de vie où j'en suis, tu vois.
Ah.
Où je me dis, bon voilà, je dois être j'ai passé un tiers, il doit me rester deux tiers de ma vie là. Donc ma vie est divisée en trois, il y a une partie égalitaire des trois qui est grisée là.
T'es ricain, Ben.
Ah bon? Pourquoi?
parce qu'ils veulent être éternels vachement.
Ah ouais?
Ouais.
Alors je sais pas si j'ai envie d'être éternel. Ah, je sais pas. Mais est-ce qu'on fait pas ces métiers pour être un peu éternel?
Si, ouais.
Tu vois, de se dire, il y aura toujours une trace. De ce qu'on fait. Et comme moi, à chaque fois, c'est pour ça que je fais pas du divertissement pur aussi. J'essaie de me sentir utile. Parce que je me dis que, tu vois, là, aujourd'hui, bon, ça me donne un petit coup de vieux, mais il y a, tu vois, au bout de 50 chaînes, il y a des gens qui me disent, t'as été vraiment le youtubeur de mon adolescence qui m'a aidé à me construire. Je me dis, ça veut dire que dans ces vies-là, des générations, au moins quand je serai mort, ils seront encore vivants, j'aurais été cette personne-là et j'aurais apporté un peu de ce truc-là. Et eux, du coup, pourront l'apporter à d'autres gens, etc. Quoi.
Mm.
Qui est un grain de sel, tu vois, dans le poivrier. Pas du tout. je suis super. Mais par contre, en fait, j'ai peur de souffrir.
Ah.
Je crois que c'est ça. J'ai pas. Bon, après, c'est con. Hein. Je sais pas qui va dire. Moi, j'aimerais trop me faire immoler. Pas du tout, tu vois. Mais je crois que j'aimerais bien jamais m'en rendre compte parce qu'on s'en fout. Vu que je sais pas ce qu'il y a après, ça se trouve, c'est fini. Et tant pis, c'est juste triste pour les gens qui restent, quoi.
Ouais.
Parce que toi, t'aimerais avoir une mort de spectacle?
Non, mais je crois que j'aimerais bien m'en rendre compte. Je crois que j'aimerais bien le voir quand même. J'aimerais bien me voir partir, en tout cas.
Ah ouais?
Ouais, je crois que j'ai envie de le savoir sur le moment. De dire, de le percevoir, de dire, tiens, je suis en train de partir. De mes dernières secondes de
genre
vie.
Genre un crash d'avion, toi.
Alors, pas forcément aussi violemment, mais j'aimerais pouvoir me dire, tiens, je dis au revoir à cette existence, plutôt que ça arrive sans que je le sache.
D'être quand même sur un lit d'hôpital et de dire au revoir.
Ouais, d'être en contrôle quand même des derniers instants. Ouais. Et
mais
que ce
entouré
soit pas...
entouré de gens ?
Non, seul au monde. Non. Ah ouais.
Non, là, tu veux pouvoir dire aux gens, je veux dire, en fait, plus te dire à toi-même le bilan, ou tu veux dire aux gens...
J'aimerais bien avoir un peu le temps de dire au revoir aux gens que j'aime. J'aimerais bien un peu le passer des derniers moments, et puis même... Et ensuite, peut-être, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas d'être seule sur les dernières minutes, mais de voir peut-être un peu comme un film, quoi, la vie partir, et dire, bah écoute, voilà, c'était super, c'était ça, et maintenant l'autre chapitre, parce qu'il y a une vie après la mort.
tu veux pouvoir avoir la force de lancer un petit vinyle d'une musique triste.
être là au générique, tu sais.
Regardez le générique de ta vie, c'est incroyable ça, en vrai. Ah, tu finis tes podcasts sur la mort ?
Non, pas du tout. Okay. Il y a une dernière question. La dernière question, c'est quel est ton état d'esprit actuel ?
J'ai envie de mourir. Voilà. Non, mon état d'esprit actuel, c'est très drôle parce que tu vois, tu me parlais de la FAQ tout à l'heure et je parle à un moment du mood actuel, de où j'en suis et tout. C'est la première fois que j'étais aussi honnête sur mon mood actuel, qui était un peu morose et où là, je me culpabilise beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir la responsabilité de rendre les gens un peu heureux dans mes vidéos, tu vois. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que rendre les gens heureux, c'est aussi juste être honnête avec eux 100%. Et là, ça va mieux. J'ai passé une semaine horrible la semaine dernière. C'est
Pourquoi
la première fois des mauvaises nouvelles, des projets qui n'arrivent pas à se faire, des trucs comme ça. Mais je suis un grand garçon, donc normalement j'arrive à gérer. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un truc de je n'arrivais plus à gérer ma colère, mes émotions, etc. J'ai passé une semaine vraiment de l'angoisse un peu, tu vois. Et là, le fait d'être parti en Normandie, c'est un peu mon antidépresseur, donc ça me fait du bien. Donc j'ai passé mon après-midi dans un bar où j'ai pas bougé, je me suis assis. Et l'avantage avec les petites villes, c'est que tu croises tout le monde. Donc c'est-à-dire que moi, je suis resté de 13h à 23h30 à la même place au bar avec que des gens qui venaient s'installer à la table et tout, donc c'est trop bien. Et en fait, ça m'a fait du bien. Donc je me rends compte qu'il faut que je prenne des vacances, juste de temps en temps, des week-ends, ce serait pas mal. Et là, du coup, je reviens de Normandie, donc mon état d'esprit est plutôt cool. Où là, je reviens un peu boosté. Là.
Merci Ben.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Ben Nevers. Je ne sais pas encore si je parviendrai à partager un extrait vidéo où je lui lis son poème. Dans le doute, je vais vous lire ici le deuxième poème que j'ai donc écrit pour lui après coup. Cher Ben, comme tu es le mec à concept, tu inspires des concepts. Comme celui d'aujourd'hui, du poème après coup pour mon invité en FaceTime. Est-ce que je le ferai pour d'autres invités ou est-ce que c'est toi que je rappellerai régulièrement ? Car oui, tu fais partie de ces invités que j'ai rencontrés pour la première fois dans le podcast, que je n'avais jamais croisé avant et avec qui à l'issue de la discussion, j'avais envie de devenir amie. C'était très agréable de m'entretenir avec un host, quelqu'un qui interview les gens et sait se montrer généreux en anecdotes perso, qui saisit précisément la nature même d'un podcast. Tu es intelligent, drôle et gentil. Ben, je me suis beaucoup marrée à nous réécouter et j'ai apprécié que tu ris à mes blagues. Merci. Parfois, c'est uniquement moi qui ris à celle de mon invité. Et parfois, ça ping-pong magiquement. C'est fluide. On aurait pu parler encore des heures, mais comme ce poème, je vais écourter, inciter les gens à nous écouter et te dire à très bientôt, Ben. C'est hyper inspirant pour moi de rencontrer des créateurs indépendants, des gens qui créent leur système et révolutionnent la parole à la première personne. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.